Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses. Vous écoutez Les Jeux Dis-moi, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Bartouf, et pour m'accompagner dans cette émission, je retrouve Flavien. Salut Flavien.
Salut Bartouf, on s'est retrouvé en début d'année, c'était pour janvier, hein, le Que reste-t-il de nos amours, je crois, sur Jekyll versus Hyde.
Eh oui.
Ouais, mais je crois qu'on n'a jamais fait de jeu du mois ensemble, cependant.
Eh non, on a fait des le pour le contre, où t'étais arbitre, où on était l'un contre l'autre, et là, tu vois, on se retrouve sur un amour de jeu du mois.
C'est ça, un nouveau duo. Et alors, on va parler de quoi aujourd'hui, Bartouf ? Dis-moi. Enfin, moi, je sais de quoi je vais vous parler, et puis je sais de quoi tu vas parler. En fait, je suis en train de faire un cinéma pas possible. Mais vas-y, je te laisse annoncer aux gens qui n'auraient pas lu le titre de l'émission.
Eh ben, ça va commencer avec toi, qui va nous parler du coup de Origin Story. Et moi, j'enchaînerai avec The Pick Team Rangers.
C'est ça, on aura un petit lien, plus ou moins, qui est Matago. Plus ou moins, parce qu'on sait qu'Origin Story, c'est maintenant plus exactement Matago qui fait la traduction. C'est une espèce de truc à côté, qui est aussi dirigé par le patron de Matago, mais j'en reviendrai dessus vite fait. Mais, et puis toi, c'est du Matago pur jus. Il y a le logo, il y a le petit chat sur la boîte et tout.
Non, hein. Il ne se cache pas là, ça y est.
Et donc, bon ouais, je reviendrai dessus aussi, mais sur Origin Story, vous aurez peut-être un goût déjà entendu, hein, puisque c'était un des coups de cœur de Essen dernier, et ça s'est transformé en jeu du mois, ce qui est une bonne nouvelle.
Eh bien, tu me parles d'Essen, mais tout ça, on ne peut le faire que grâce à nos donateurs et donatrices, ce genre d'événement justement. Et c'est le moment de remercier ces donateurs et donatrices.
Hein. Ouais, on en remercie comme d'habitude une partie, donc effectivement, je vais remercier les donatrices et donateurs. 4-3. Deckmoon, Benjib, MCJC78, La Famille Blue, B1, Jimmy Celtics95, Olfenw, Grovast, Kinarbre, Gnocchiflet, Beru, Nox, Hammer et Delot. Mais on n'a pas que elles et eux à remercier. On a qui aussi à remercier 6 fois, Bartouf ?
Eh ben, la Caverne du Gobelin, bien entendu, qui est notre sponsor et qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, comme tu le disais, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Toutes ces boutiques sont équipées d'un café-jeu. Mais c'est surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.fr. Alors, de quoi ça avait parlé la dernière fois, Flavien ? Te souviens-tu ?
Alors, je me souviens parce que j'ai joué aux deux jeux, Fromage et Echoes of Time. Aucun de ces deux jeux, moi, je les aurais pris en jeu du mois, tu vois. J'ai joué aux deux en numérique uniquement, mais ça m'a pas emballé plus que ça, en tout cas pas suffisamment pour faire un jeu du mois. Fromage, c'était le Pionfesseur et Echoes of Time, c'était Kurtz. Est-ce que toi, t'as joué à un de ces deux jeux à tout hasard ?
Et non.
Très bien. Alors, il y a le Pionfesseur qui, à l'heure où on enregistre, n'a pas encore laissé le commentaire, mais il m'a envoyé une petite missive pour partager ça. Il le mettra sûrement en commentaire. Il me disait juste qu'il a essayé depuis son jeu du mois. Il a essayé Formaggio, qui est fromage, mais en Italie. C'est une espèce de suite mécanique et thématique, du coup, mais qui se passe cette fois en Italie. Et donc, il m'a juste dit qu'en fait, il a trouvé ça encore mieux. Voilà, que c'était encore un meilleur jeu que Fromage, donc je pense qu'on aura une VF, pour l'instant il se trouve uniquement en VO, un Formaggio, et du coup il disait quelque chose que moi je trouve aussi et qui moi du coup m'éloignait un peu du jeu, c'est que les mini-jeux centraux, là ceux où tu marques des points, bah ils étaient pas très rigolos, et donc ceux de Formaggio a priori sont un peu mieux, ils sont pas parfaits mais ils sont quand même mieux, ce qui rend le jeu global mieux, voilà pour Formaggio, et sinon les commentaires qu'on a eu sur le site de la part de personnes qui n'ont pas fait les jeux du mois, il y a Monsieur Bis qui traite le Pionfesseur d'influenceur, donc me fait un plaisir de le relayer et je réponds à sa place que tu sais ce qu'il dirait, qu'est-ce qu'il répondrait Pionfesseur quand on lui dit ça ?
Et non, lui, il est un inspirateur, voyons.
Inspirateur ou éclaireur, voilà. Mais parce que du coup il a réussi à éclairer Monsieur Bis qui avait mis de côté un peu l'idée d'acquérir Fromage, parce que il est fan de Tolkien et tout, intrigué, mais il s'est dit, bon, il y a des avis mitigés, donc laisse tomber. Et finalement, il y a eu un petit coup du destin, où, après avoir écouté le podcast, l'émission, sa boutique lui dit, ah, il me reste un exemplaire, et donc voilà, il a craqué. Donc bravo, le Pionfesseur. Après, ça permet de jouer à des bons jeux, ma foi, hein. Quand on influence dans ce sens-là, c'est bien. Et on a un commentaire de Cal Hervé qui, un truc intéressant, qui a un proto qui ressemblait à Fromage, en fait sur le fait d'avoir comme ça 4 mini-jeux auxquels tu joues en même temps et tu joues de manière un peu alternée comme dans Fromage où tu joues à chaque tour un mini-jeu différent. Je trouvais ça assez intéressant parce que il pousse le concept effectivement plus loin que les mini-jeux un peu que moi je trouve un peu nuls de Fromage. C'est que en fait pour chaque quart, c'est un jeu différent, un genre différent où t'as de la pose d'ouvrier, du deck building, de la pose de tuiles et du roll and write. je trouve l'idée cool. Donc il dit ça marche pas. c'est le truc des photos, tu sais, il dit ça marche pas. Mais je vais continuer l'idée. Moi, je t'encourage effectivement à continuer l'idée parce que ça m'intrigue. J'ai envie de voir ça, tu vois, où tu alternes un peu dans tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ces retours sur les commentaires ?
Eh bien non, rien du tout pour le coup. Eh bien, je te propose alors qu'on enchaîne avec donc le premier jeu qui est Origin Story, dont tu vas nous parler tout de suite.
Fait. Alors, Origin Story, je disais que vous auriez peut-être un air de déjà entendu, puisque moi je l'ai découvert à Essen, bah, notamment avec Cyrus, lors d'une partie à 4. Je vous mets l'épisode dans le billet. Et on avait fait un retour plutôt enthousiaste, plutôt long par rapport au retour sur les autres jeux, mais parce qu'il y avait pas mal de choses à faire, on était assez enthousiasmés par le jeu. Faut savoir que moi j'y allais assez méfiant, parce qu'en fait c'est donc un Stonemaier Games, et notamment avec au co-autorat Jamie Stegmaier. Donc Monsieur Stonemaier. Et c'est une boîte d'édition que je trouve intéressante, mais qui initialement, moi, m'inspire pas trop le fait que ça va être un bon jeu. Et ils ont rarement fait des jeux que je trouve absolument nuls, tu vois. Notamment, il y a Tapestry que j'aime beaucoup. Tu vois, c'est les Scythe, etc. Wingspan, qui est pas mon jeu préféré, mais a posteriori, ils ont quand même... Enfin, tu vois, Wingspan est marquant dans l'histoire du jeu de société. Plus par tous les à côté du jeu que le jeu lui-même, je pense. Mais ouais, il est quand même important comme éditeur. Et donc, Stegmaier comme personne qui est derrière la maison d'édition. Mais c'est un personnage que j'aime pas trop non plus dans ses vidéos, etc. Enfin, je sais pas, il y a un côté très, très patron, quoi, qui est là et qui en fait des caisses qui moi, me le rend pas sympathique de prime abord. Alors, c'est vraiment du jugement pur d'a priori, parce que j'ai jamais discuté avec lui. Donc moi, j'arrivais sur Origin Story un peu méfiant quand même, parce que en plus, tu sais que j'aime les jeux de plis, mais le problème, ces derniers temps, c'est que les jeux de plis étant à la mode, tout le monde en fait, pas parce qu'ils ont envie de faire des bons jeux de plis et parce qu'ils aiment le genre, mais parce que c'est une hype sur laquelle surfer, comme à un moment c'était le cas avec les jeux à cocher, ou comme c'est le cas avec les PPP, etc. Et donc évidemment, ça donne plein de jeux très quelconques, comme dans tous les autres genres, et notamment quand c'est des éditeurs ou des auteurs occidentaux qui en fait n'ont pas de culture du jeu de plis, si ce n'est peut-être leur culture de l'enfance, tu vois, ce qui est déjà bien, mais qui n'ont pas la culture du jeu de plis contemporain, notamment tout ce qui s'est fait en Allemagne du côté des années 90 ou du Japon du côté des années 2010, et qui du coup ont l'impression de réinventer la roue et proposent des choses absolument pas originales. Donc ça fait quand même, tu vois, beaucoup d'éléments où tu es là et tu dis pfff, allez, on y va, mais bon, un peu à reculons. Et la différence quand même, le truc important, mais que je savais pas en y allant, donc tu vois, ça faisait pas partie de mes a priori, c'est qu'en fait, il n'y a pas que Stegmaier dessus, il y a aussi Pete Wissinger, que pour le coup, je connaissais pas du tout en tant qu'auteur, après notre partie, pour le coup, on a discuté avec lui, il est venu à la table, et en fait, on s'est rendu compte qu'on était sur le même Discord américain du Portland Game Collective, qui pour le coup, préexiste un peu à cette trick-taking renaissance, et où, à la base, c'est quand même des personnes vachement intéressées par le jeu de pli et par l'import et tout qui y sont. Et du coup, le voir lui là-dessus, en fait, je me suis dit, alors on avait déjà fait notre partie, j'avais déjà apprécié, et je me suis dit, ah, la qualité du jeu vient peut-être plus de lui que de Stegmaier. Alors peut-être pas du tout, tu vois, j'ai pas lu de comment s'est déroulé le développement, de qui ça vient et tout, mais disons que j'ai au moins l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un peu expert du sujet et connaisseur de son évolution, qui s'est penché sur le projet et qui s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose à lui apporter, et ça se sent dans le game design, puisque on sent une espèce d'expertise du jeu de pli, et même quelque chose qui est assez beau, qui est une espèce de déclaration, une lettre d'amour au genre et à tous les façons dont il a pu évoluer et twister un peu l'espèce de belote ou de whist quoi du début. Je vais te laisser intervenir parce que moi du coup, alors je l'ai pas acheté à Essen parce qu'il était sold out, mais avant l'arrivée en VF fin janvier, il y a quelques boutiques, notamment le Passe-Temps, qui a réussi à en avoir en VO et qui était pas beaucoup plus cher que la VF. Or moi j'avais appris que la VF serait faite plus ou moins par Matago, que il y a quand même beaucoup de texte sur les cartes, puisqu'on va le voir, c'est un jeu de cartes où il y a beaucoup de pouvoir, et où aussi il faut respecter le jargon du jeu de pli sur quand est-ce que se déclenchent certains effets, etc. Aussi, je me suis dit, quitte à payer 5 balles de plus, au moins je suis sûr qu'il n'y aura pas de faute. Donc voilà, et donc parce que c'est pas exactement Matago, alors je sais pas dans les règles si on voit un moment Matago ou pas, mais c'est distribué par PTS, qui est une branche liée à Matago, hein, je l'ai dit, Arnaud Charpentier est aussi le patron de PTS, etc. On sait depuis quelques temps, c'était aussi je crois le cas sur Arx par exemple, que Matago ne met plus son logo sur les jeux traduits, Il y a certainement des raisons entrepreneuriales derrière et tout, en termes de filiales, etc. Mais c'est aussi parce qu'ils ont une mauvaise réputation de ce côté-là. Et que du coup, voir un jeu, un symbole Matago sur un jeu traduit invite à la méfiance. Mais toi, tu possèdes la VF. Moi, j'ai aussi pu me rencarder. Est-ce que tu peux nous dire si t'as réussi à jouer avec le jeu?
Eh ben écoute, oui. Les règles, il n'y a pas de problème. Il y avait une petite erreur, mais qu'ils ont tout de suite vu et corrigé en te mettant un sticker, en te disant, bah là, dans les règles, vous mettez ça. Et c'est un pictogramme qui manque dans la phrase, tu vois. Donc c'est vraiment rien du tout. Par contre, sur les règles en elles, sur les cartes en elles-mêmes, là, je ne peux pas te promettre quoi que ce soit parce que bah, tu t'en avais un peu parlé à SN, t'avais dit bah c'est un jeu où on découvre un peu le truc et c'est cool de pas se spoiler. Donc j'ai pas lu toutes les cartes. Donc pour l'instant, dans les parties que j'ai faites, j'ai pas repéré des coquilles où je me dis putain c'est incompréhensible, qu'est-ce qui se passe. Espérons que ça continue.
Ouais. Alors après, va y avoir par moments des confusions quand vous allez jouer, mais en fait c'est moins du fait de la traduction. En fait c'est les mêmes problèmes que vous allez avoir en VO. C'est juste que c'est des pouvoirs qui vont s'opposer aux règles ou les contourner ou les modifier et que des fois il y a des pouvoirs qui vont interagir entre eux et que du coup, un peu comme dans un Magical Athlete, un peu moins quand même, heureusement. Bah, des fois, je sais pas si t'as eu ça, mais c'est parfois un peu, attends, c'est dans quelle ordre qu'on le fait, au-delà du fait d'oublier éventuellement certains pouvoirs, mais disons que la confusion va plus venir de ça que de la traduction, quoi.
Bah là, tu sors tes habitudes de joueur de Magic, tu te dis, alors ça, c'est dans la pile, et donc là, je dépile.
Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, après, il y a rarement des trucs qui se passent en simultané, c'est quand même des effets qui se déclenchent à des moments précis, mais ça peut être un peu confusant pour certaines personnes, et voilà, c'est normal si dans vos premières parties, vous avez ce genre de petits soucis. Vous l'aurez aussi quand Magical Athlete, aka Athlète de Compète, vu ça, sortira en français chez Yellow. Il faut passer outre, faut comprendre l'esprit du jeu, et puis se mettre d'accord sur comment les résoudre. Donc je l'ai dit, c'est un jeu de plis. C'est un jeu de plis très classique, hein. C'est vraiment un jeu de plis en must follow, donc il faut suivre à la couleur, c'est jaune qui est demandé, il faut jouer du jaune. Il y a un atout qui justement je crois est le jaune, donc très très truc de base où c'est la plus haute carte à l'atout qui gagne, mais s'il n'y a pas d'atout c'est la plus haute carte à la couleur demandée, sauf règle qui contredit ça évidemment. J'aime bien moi, mais c'est pas quelque chose de très précis dans Origin Story, mais j'aime beaucoup la mise en scène en fait de l'évolution des valeurs des cartes, et c'est quelque chose que j'aime bien dans les jeux de plis, qui avait moins le cas tu vois dans les trucs avec les piques, les cœurs, etc. Là, il y a une espèce de mise en scène pour montrer la montée en puissance des cartes. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais où tu sais, des fois ça se traduit par une espèce de zoom sur certains éléments. Là, tu vois vraiment. Donc, les couleurs, ça représente la force des caractéristiques, puisque Origin Story, je vais peut-être revenir là-dessus, mais on est censé faire évoluer un super-héros. En fait, c'est l'Origin Story de ce super-héros ou de cette super-héroïne qui va petit à petit devenir justement l'héroïne en question. Et donc, les couleurs des cartes correspondent à des caractéristiques héroïques. Et donc, ouais. Le rouge par exemple ça va être la force et donc tu vas avoir un point serré et tu vas avoir une espèce d'aura autour de plus en plus puissante et donc le 13 qui est la carte maîtresse va vraiment être assez marquante en termes de mise en scène et c'est la seule carte maîtresse qui va avoir cette mise en scène là et c'est assez anodin mais moi c'est toujours quelque chose que j'aime bien regarder sur ces jeux de plis tu sais qui parfois alors là il y a un thème fort quand même hein, dans Origin Story mais parfois pour faire passer un sentiment de jeu ou des émotions ça va beaucoup se traduire par ça et sur comment est-ce que tu arrives à représenter une espèce de montée en puissance là je trouve que c'est assez chouette je sais pas si toi tu l'as vu tout de suite ou si c'est moi qui après plusieurs parties parce que je saurais pas dire si je l'avais vu dans ma première partie mais
je l'ai pas vu tout de suite dans ma première partie mais petit à petit en fait ça s'est apparu si mais je trouve ça justement assez intelligemment fait à la fois enfin tu sais un peu comme les cités perdues ça a un côté c'est très clair quand tu y penses et en même temps en jeu c'est assez doux et du coup t'avances c'est très agréable justement je trouve ça trouve un point sensible intéressant
ouais j'aime bien aussi quand ils font ça dans des Jingopolis je sais pas si t'as joué mais dans des jeux de city building de manière générale ou comme ça t'as une évolution ou dans For Sale aussi une petite évolution où tu vois un peu pourquoi est-ce que ça évolue dans ce sens là et donc je disais jeu de plis assez classique la thématique donc je l'ai dit c'est les super héros les super héroïnes et pour gagner des points en fait ce qu'on va faire en gros hein il y a évidemment plein d'autres petits trucs mais c'est que au début de la manche on va choisir si on veut jouer en super héros ou en super vilain c'est pas un pari sur un nombre de plis tu sais comme il y a beaucoup par exemple les professeurs je n'aime pas du tout ça je sais pas si toi c'est quelque chose qui t'énerve aussi mais tu sais les trucs où je dois faire 4 plis exactement c'est pas quelque chose qui est absent d'Origin Story mais c'est pas la règle de base. La règle de base, c'est soit je suis super héroïne et à ce moment-là, je veux faire un maximum de plis parce que chaque pli me rapportera un point, ou soit je veux faire aucun pli, je joue super vilain, et si j'en fais aucun, je marquerai 4 points, ce qui est pas mal, tu vois, 4 points. Mais il y a ce choix qui est plus binaire, mais qui, on verra que la phase de pré-pli, qui est la plus importante finalement, est déjà assez longue, donc si en plus t'avais un truc qui était un peu plus complexe, ce serait un peu relou au niveau du tempo, quoi. C'est un jeu de pli qui, moi c'est rigolo parce que j'ai mes petits discords de jeux de pli et j'ai pas mal de monde qui trouvait Origin Story un peu nul. Parce que c'est des personnes qui aiment bien les jeux de pli où tu peux compter, tu sais, les cartes, etc. Moi j'aime pas trop ça. En général, j'aime bien quand il y a du hasard, une bonne part de hasard, faut qu'évidemment soit le bon équilibre. Mais du coup, ces gens-là étaient frustrés parce que, ils disaient, on peut rien contrôler dans la phase pli parce que, notamment, on distribue, je crois, 8 cartes par personne. Et c'est un truc qu'on avait fait remarquer, je crois, au retour des scènes. Ça fait qu'il y a beaucoup de cartes qui n'ont pas été distribuées. Même quand tu joues à 5, qui est la configuration maximum, ça fait 40 cartes sur les 13 x 4. Je vous laisse faire le calcul, ça devrait faire 52. Bah effectivement, si tu joues à 3 ou 4, il y a beaucoup de cartes qui sont pas distribuées, beaucoup plus que dans les jeux de pli classiques. Et donc il y a plein de gens que ça énerve parce qu'ils peuvent pas compter, tu vois. Ce que je peux comprendre, sauf que moi ça me pose pas de problème dans Origin Story, on verra pourquoi. Je sais pas si toi c'est quelque chose que t'as remarqué ou pas, ou qui t'a agacé, ou qui a agacé des gens autour de toi.
Ça m'a pas agacé, mais ça m'a un peu perturbé parce que effectivement dans mes habitudes de jeux de pli... Surtout quand c'est, tu vois, un must follow assez classique, tu vois, dans ses règles de base. Bah, du coup, t'es un peu, ah, donc là, je compte pas, ça sert à rien. Ouais, voilà, tu vois, tu peux plus revenir sur tes habitudes dans ce sens-là. Mais ça m'a pas dérangé, tu vois, c'est juste, tu le prends en compte et puis tu te dis bon, ok.
Tu vois que l'intérêt est ailleurs, en fait, que du coup, l'intérêt est pas dans le fait de jouer à un jeu de pli, que c'est pas, enfin, c'est un jeu de pli, c'est une structure de jeu de pli, mais c'est pas ça qui est intéressant dans le jeu et c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer, je pense. Mais effectivement, il y a des gens qui chouinent là-dessus et, bah, moi, je vous conseille, dans ce cas-là, vous distribuez un peu plus de cartes. Je sais pas, à 4, vous en donnez 10 par personne ou un truc comme ça. Si vraiment c'est ça qui vous embête, c'est assez facile à fixer. Je disais, on s'en fout un peu. En tout cas, moi, je m'en fous un peu de ce truc-là. Déjà parce que j'aime bien quand il y a une bonne part de hasard, parce que ça autorise les prises de risque, ça autorise, en fait, surtout, ça crée des situations bizarres où parfois, bah, peut-être qu'il y a une couleur qui sera quasiment pas représentée dans le jeu. Et ça, tu le sais pas au début, en fait. Et ça crée des situations qui sont effectivement plus chaotiques, plus inattendues, qui vont peut-être frustrer les gens qui aiment bien le contrôle, tu vois, le jeu de pli avec pas mal de contrôle. Moi, au contraire, tu vois, les émotions que ça crée, les situations que ça crée, ben, pour moi, l'émotion est plus forte que la perte que j'ai en termes de contrôle là-dessus. Et surtout que, parce que ça, du coup, on pourrait le faire dans tous les jeux de pli, tu vois, distribuer beaucoup moins de cartes. Mais là, ce qu'il y a, c'est que dans Origin Story, l'enjeu, c'est pas tellement de se faire une belote ou un whist. En fait, là, le système de jeu de pli que je disais, pas original pour un sou, du coup, tu vois, en fait, quand on voit le jeu de pli de Origin Story, c'est tellement pas original que tu sais que c'est pas ça qui va être intéressant dans le jeu, quoi. Là, le système de pli, qui peut-être est un peu long, du coup, tu vois, vu qu'il y a peu d'originalité, bah, c'est un prétexte, en fait. C'est un prétexte pour dire qu'est-ce que c'est Origin Story et qu'est-ce qu'on veut te faire ressentir en jouant à Origin Story, qu'est-ce que c'est l'essence de mon jeu. Et l'essence du jeu, ben, il se marie très bien à la thématique. C'est en fait un jeu à build, à construction, tu vois, où tu vas créer un petit tableau au cours de 5 tours. Et vraiment, je dis build parce que ça rappelle des jeux vidéo ou des roguelites où tu vas te créer ce qu'on appelle un build, où vraiment tu vas essayer d'avoir des pouvoirs qui te rendent puissant, à la fois parce que les pouvoirs sont puissants, et à la fois parce que l'interaction entre les pouvoirs va rendre ça encore plus puissant. Et l'idée, c'est que, en plus, donc thématiquement, je l'ai dit, au début, on est un random et on va raconter un peu comment cette personne est devenue un super-héros, une super-héroïne. Et petit à petit, en fait, tout ça, ça va se traduire par des pouvoirs qu'on va récupérer en début de manche et qu'on va devoir sélectionner parmi deux et rajouter petit à petit, au cours des 5 manches, à notre personnage. Ça va se traduire, en fait, par des catégories de cartes qui sont assez peu importantes en termes de lore, sauf pour certains pouvoirs, mais dans l'ensemble, on s'en fout. Mais moi, je trouve que vraiment, tu racontes vraiment l'histoire de ton personnage à la fin. Tu te dis, bah, son ennemi, sa némésis, c'était tel perso, ses équipements spéciaux, c'était ça, elle avait des pouvoirs télépathiques et tout. Et donc, en fait, ça, c'est des petits pouvoirs qui vont se traduire par des, évidemment, bah, par les illustrations et tout, mais aussi par évidemment, des pouvoirs et des effets lors de la phase de pli qui vont justement offrir toute la richesse et tout l'intérêt lors de cette phase de pli, puisque l'intérêt, il est pas dans le système de pli en lui-même. Cet intérêt-là, tu vois, ouais, c'est, en fait, on crée ces pouvoirs, on les choisit pour justement se dire, bon, dans le jeu de pli qui est classique, quelle opportunité je vais pouvoir saisir, à quel moment, quelle situation, à quel moment je vais pouvoir profiter, quelles interactions je vais pouvoir créer de manière générale sur mon personnage, mais spécifiquement aussi dans cette manche. Et du coup, les choix, en fait, que tu vas avoir dans le jeu, et donc les moments où tu joues, hein, puisque c'est ça qui est intéressant dans les jeux, c'est quand même à quel moment tu fais des choix, quelle puissance ils ont, qu'est-ce que ça demande pour arriver à ces choix. Tu sais, quand on parle de Knizia, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est analyse extrêmement rapide, choix très intéressant, pour beaucoup de Knizia, en tout cas pas pour tous, mais tout ça c'est toute une espèce de spectre. Et je trouve que justement tous ces pouvoirs et comment les activer et comment les choisir et tout, bah en fait c'est là que les choix vont être intéressants dans le jeu de pli au lieu des choix habituels de jeu de pli, justement, tu vois, où c'est là je sais que t'as plus la couleur donc tu vas couper, etc. Ça, on va l'avoir, mais c'est pas ça qui est intéressant dans le jeu. On va quand même garder l'idée de tu vois, t'as le 13 d'atout, bah, tu sais que t'es maître à un moment et que tu vas gagner la partie, un pli à un moment. Mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est vraiment l'utilisation de ses pouvoirs. Et du coup, l'intérêt principal du jeu, c'est cette espèce de progression, ce crescendo, cette montée en puissance qui représente du coup bien l'idée de super-héros, qui va monter en, tu vois, c'est vraiment le côté, tu te fais piquer par l'araignée, tu te rends compte que t'as des trucs qui te démangent, commence à y avoir des trucs bizarres autour de toi, puis tu commences à monter sur les murs, puis en fait, et tu vois, de plus en plus, tu découvres un peu ton potentiel et se rajoutent des petits trucs que tu découvres au fur et à mesure jusqu'à ce que t'aies le grand reveal, l'apothéose, qui est la cinquième manche où t'as vraiment ta caractéristique principale de super-héros ou de super-héroïne, ce qui va te caractériser en tant que tel et qui est un pouvoir ultra pété. Là encore à choisir parmi deux qu'on va avoir reçu en début de partie. Est-ce que toi tu regardes tes pouvoirs au début de la partie ou pas?
Non, je les laisse face cachée. Bah, j'ai même l'impression que tu vois dans l'explication des règles, il te pousse un peu dans ce sens-là, à pas forcément aller voir.
Ouais, moi je conseille toujours au moins en première partie de les laisser cachés parce qu'il y a le plaisir de la découverte en fait. C'est le cas pour les petits pouvoirs. Mais c'est encore évidemment plus le cas pour les pouvoirs finaux, quoi. Il y a quand même des pouvoirs où c'est utile de les regarder en début de partie parce que tu peux vraiment réfléchir à qu'est-ce que tu récupères comme pouvoir avant vis-à-vis du pouvoir que tu vas avoir à la fin. J'ai notamment un pouvoir en tête. Alors, on l'a dit, c'est un jeu à spoil. Donc je vais pas vous décrire en fait les pouvoirs. Parce que je trouve que ça fait partie vraiment du plaisir de jeu que de les découvrir. Donc je vais pas vous donner d'exemple précis, mais je pense à un pouvoir où c'est très bien de le voir au début, en termes de stratégie en fait. En termes d'émotion, bah c'est toujours mieux de le découvrir à la fin, mais en termes de stratégie pour te dire ah là ça vaut le coup que je prenne ça et tout, c'est pratique de l'avoir au début. En fait, cet ajout de pouvoir, ça va caractériser ton héroïne, mais ça va aussi caractériser un peu ta façon de jouer. En fait, le jeu a une toute petite asymétrie de départ, puisqu'on va avoir des personnages différents au début, qui vont avoir un peu une petite orientation. Ça, je sais jamais trop quoi en penser, parce que j'ai l'impression quand même que ça te guide pas mal dans un sens, dont tu peux te défaire par la suite. Et tu vois, à la fois c'est cool, et enfin moi j'aime bien quand t'as les deux en fait, tu vois, quand tu peux choisir de commencer tous pareil ou pas, parce que là les pouvoirs, enfin les petits pouvoirs de départ sont quand même assez orientés et vont plutôt vraiment t'orienter vers ah bah là je veux prendre beaucoup de plis, là je veux pas en prendre beaucoup. Je pense notamment à deux personnages qui sont un peu antagonistes là-dessus. Je sais pas si toi t'as un avis sur ce truc de départ là qu'on a.
Ouais, moi aussi peut-être que j'aurais aimé une position neutre pour se laisser porter par justement les cartes et pas effectivement avoir une espèce de biais en te disant bah jouons jusqu'au bout le perso, donc appuyons-nous sur son pouvoir.
Alors en fait, t'as effectivement tendance à prolonger le pouvoir de départ, je trouve. Mais en tout cas, tout ça va créer en fait une asymétrie progressive. Au début, le jeu est assez peu asymétrique, il va l'être de plus en plus, à la fois dans ce que tu vas avoir sur ton plateau, mais du coup, ce que t'as sur ton plateau, ça va se retranscrire aussi dans la manière dont tu vas jouer. Tu vas quand même toujours essayer soit de gagner des plis, soit de pas en gagner du tout, mais la façon de le faire va être vraiment différente, je trouve, de personne en personne au fur et à mesure de la partie. Et donc, en gros, même si je vais pas donner d'exemple précis, c'est des effets assez variés. En gros, ça va soit être des changements de règles, soit des ajouts de règles. Et notamment, tu sais, j'ai dit cette frustration que peuvent avoir les gens de pas prendre, d'avoir un gros tas de cartes qui est pas distribué. En fait, il y a pas mal de pouvoirs que je trouve assez cool, qui justement vont jouer avec ces cartes non distribuées, qui vont être en fait des pouvoirs de flexibilité au niveau de la main, qui vont te dire, bah là, tu pioches, tu défausses, etc. D'où, en fait, le besoin d'avoir toutes ces cartes-là qui sont pas distribuées. J'ai dit, la manière dont on gagne les points, principalement, ça va être à la fin de la phase de pli, le nombre de plis qu'on a pris ou n'avoir pris aucun pli. Mais il y a aussi quand même pas mal de cartes qui permettent de gagner des points lorsque se présentent certaines situations. Et ça peut être quand même assez conséquent, quoi. Enfin, moi, j'ai déjà eu des parties où quelqu'un arrive à gagner énormément de points grâce à un pouvoir. Et c'est assez cool. En fait, t'es content pour lui parce que tu dis, waouh, t'as réussi à super bien exploiter ton pouvoir, bravo. Et du coup, des fois, ça compense le fait de pas avoir très bien joué, sur son rôle, quoi, qu'on choisit simultanément. Et ouais, il y a pas mal de petites cartes comme ça qui, et en fait ce qui est cool, c'est que ça crée des situations là aussi, tu vois. En fait, s'il y avait pas ce pouvoir, bah le pli qu'on vient de faire, il serait quelconque. Mais là en fait, il s'est passé quelque chose, ça a été mis en valeur par ce pouvoir, ça se transcrit par quelque chose de assez fort qui est le gain de points. Et après, au-delà de ces pouvoirs là, il y a plein de petits pouvoirs que je trouve, que je disais que Pete Wissinger connaît sûrement le jeu de pli, tu vois, et un peu son trajet ces dernières années. Parce qu'il y a plein de pouvoirs qui, en fait, sont des petits twists qu'on retrouve dans plein de jeux de plis. Et en fait, justement, c'est là que je disais qu'il y a une espèce de déclaration d'amour de l'auteur, on va dire quand même des auteurs, du coup, à un genre qu'ils aiment, tu vois, qui les a portés, et ils se disent, vas-y, en fait, je l'aime tellement que je vais pas mettre un twist sur mon jeu de plis, je vais tous les mettre. Mais ça va pas être des règles, ça va être des pouvoirs. Et ça, je trouve ça vraiment assez beau en termes de déclaration d'amour, tu vois, vis-à-vis d'un genre. Et en même temps, l'effet que ça a sur le jeu, parce que tu sais, les jeux de plis, j'ai dit, on en a énormément qui sortent ces dernières années. Et souvent, il y a un twist ou deux qui vont faire la spécificité du jeu. Et parfois, bah, ça suffit pas à rendre le jeu assez différenciant par rapport à ce qui existe. Là, en fait, c'est qu'on va avoir plein de twists. On va pas tous avoir les mêmes. On va tous jouer à des jeux de plis différents. En fait, c'est des jeux de plis qui existent quand même ailleurs, tu vois, ces pouvoirs. Mais là, on va tous les jouer en même temps. Et c'est comme si toi, tu jouais, je sais pas, au bridge, moi, à la belote, un tel à un jeu de Taiki Shinzawa et l'autre à un jeu allemand des années 90. Et je trouve ça assez cool, quoi. En fait, c'est à la fois en tant que nerd du jeu de plis, tu vois. Parce que moi, je reconnais un peu les jeux, tu vois. Mais aussi, ouais, il y a quelque chose d'assez émouvant, je trouve, dans ça, l'auteur qui déclare un peu « J'aime ce genre, j'arrive pas à choisir le twist, je les mets tous dans mon jeu. » Et ça marche. C'est ça qui est fort, c'est que tu pourrais te dire « Putain, ça va faire un truc incompréhensible, ça va être super millefeuille, boursouflé. » Et en fait, dans l'ensemble, ça marche, je trouve. Et c'est presque étonnant que ça marche, tu vois. De se dire « Il y a tellement de bordel. » Et pourtant, bon, en fait... C'est aussi porté par le fait que le système de pli en lui-même soit extrêmement simple et pas original. Bah du coup, ça permet à tout ça de se révéler et de fonctionner. Et tout ça, du coup, ouais, je le disais, c'est très lié à la création de l'identité de l'héros, de l'héroïne, du héros ou de l'héroïne. On va avoir petit à petit des enjeux différents et en fait, ça crée à la fois l'identité, une narration de l'héroïne avec cette apothéose et une narration de partie. Tu vois, il y a l'espèce d'identité de notre personnage et notre identité qui se confondent. Nous, c'est une identité purement ludique, tu vois, qui a des règles spéciales. Et notre personnage, elle va avoir son identité narrative, son parcours d'héroïne, son parcours de héros qui va l'amener, tu vois, à la fin. Tout ça, ouais, là c'est le seul moment où je vais un peu parler de l'édition, parce que ce fameux super pouvoir là, le cinquième, en attendant de pouvoir le révéler, bah je le trouve super parce que c'est une aide de jeu qui t'as pas besoin d'autre chose pour jouer en fait, pour expliquer le jeu. Moi, j'ai juste besoin de cette aide de jeu. Donc ça, c'est l'édition de Stonemaier. On sait qu'ils sont assez forts au niveau de l'édition à ce niveau-là. Les visuels de Clémentine Campardou, je les trouve ultra canon. La couve, je la trouve trop stylée. C'est l'illustratrice notamment de Wormspan. Je trouve les plateaux perso aussi avec... en fait, chaque petit pouvoir, ça va aller dans une case de BD. Ça se présente comme un petit bouquin, comme un petit comics, bon, de deux pages, tu vois. Mais je sais plus... Je crois que je l'avais déjà dit à Essen. Au dos des plateaux, t'as les boîtes de Stonemaier. Tu sais, t'as Wormspan, t'as je sais plus quoi comme jeu. T'as dû avoir Apiary. Et moi, j'étais là et je me disais, putain, c'est vraiment dégueulasse d'avoir mis de la pub pour ton éditeur derrière tes plateaux joueurs. C'est vraiment hideux, quoi. Et en fait, je sais plus qui me l'avait dit et il m'avait dit, mais en fait, si, c'est une référence aux comics qui, dans les petits fascicules, ben, il y a les pubs pour les autres comics de l'éditeur au dos. Tu vois, moi, c'est une pratique que j'avais pas des comics du tout. Mais du coup, en fait, c'est cool. Alors que vraiment, pour moi, c'était vulgaire. Et c'est devenu quelque chose de cool parce que cohérent vis-à-vis de la direction artistique et de ce que tu veux représenter en termes de jeu. Et ouais, je sais pas si toi tu veux dire un mot sur la direction artistique un peu.
Ah bah surtout dans le monde du jeu tel qu'il est où il y a une espèce de standardisation sur les illustrations. Là, on a quelque chose qui tranche quoi. Même par rapport à ce que elle avait pu faire sur Wormspan.
Ouais, Wormspan est beaucoup plus classique je trouve dans la représentation du dragon et tout. Et là, ouais, t'as des espèces de trucs qui dépassent des personnages, tu sais, comme si c'était des flaques d'encre sur la couve hein, déjà. Et ce qui peut, tu vois. Et moi, je trouve ça cool d'oser un peu aller vers autre chose en termes d'identité. Et sur les cartes aussi, t'en as les cartes pouvoir, t'en as qui sont ultra stylées. Alors moins les pouvoirs finaux que je trouve un peu moins marquants, mais vraiment dans certains des autres pouvoirs, je trouve ça vraiment vraiment cool. Donc voilà, je reviens pas plus que ça sur l'édition du coup, mais c'était vraiment que je trouve que avec cette aide de jeu et tout, ça sert vraiment le système de jeu et le ressenti et le fait de mélanger ton ressenti de jeu à cette espèce de narration que tu crées de ton personnage. Et alors derrière cette acquisition de pouvoir, il y a des parties qui vont un peu moins marcher. Je parle vraiment de parties. Tu sais, on peut distinguer la partie et l'œuvre jeu. C'est-à-dire que tu peux avoir des très bons jeux qui créent des parties très ratées. Et inversement, des parties qui vont toujours marcher avec des jeux très mauvais. Tu vois, c'est souvent le cas, en fait. Du moment que tu veux faire consensuel, effectivement, les parties vont souvent moins avoir de ratés. Là où, dès que tu sors un peu, que t'es un peu plus dans la radicalité, bah, en fait, en jeu de société, ça va se traduire par des moments où, ça va pas fonctionner, où ça va être frustrant, soit au niveau de la partie, soit pour certaines personnes. Je veux bien ton retour là-dessus. Toi, t'y as joué, hein, du coup, tu m'as dit?
Oui. Moi, j'y ai joué, Origin Story. Donc, moi, j'ai pas de souci avec le fait qu'il y ait pas toutes les cartes. On avait déjà parlé de ça. Et je trouve d'ailleurs que les gens qui s'en plaignent, bah, du coup, ils ont quand même une culture assez limitée du jeu de plis, parce que le nombre de plis, tu penses au tarot où il y a le chien, tu penses même, je pense aussi aussi dans Niet, tu sais, quand tu fais choisir de défausser une ou deux cartes et que du coup, bah justement, c'est le fait de créer de l'inconnu, mais un peu choisi, qui fait que du coup, t'es en train de te dire, ok, j'ai une idée de qu'est-ce que machin.
Ouais, c'est toi qui choisis, je pense, c'est ça la différence. Pour moi, c'est moins des gens qui ont une mauvaise culture du jeu de pli que souvent. Alors, c'est un peu méchant et je suis désolé. C'est plus des gens que je trouve un peu ennuyeux, tu vois, et qui, en fait, ils ont pas le même plaisir de jeu que moi. C'est ennuyeux vis-à-vis de moi. Voilà, qui prennent leur plaisir comme ils veulent. C'est leur droit. Juste, moi, souvent, c'est des gens qui, en jeu, vont m'ennuyer et vont apprécier des jeux que moi, je trouve très ennuyeux. Tu vois, moi, j'adore Skull King, par exemple. Bah, ça va être le même genre de personnes qui vont rejeter Skull King, qui vont rejeter Flip 7, des trucs comme ça, en fait, où pour eux, c'est un jeu, il y a cette formule. Alors, là, je rassemble, hein, je pense à personne de particulier, mais où là, la formule, ça, c'est un jeu de hasard ou c'est un jeu de chance. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Et oui, comme si c'était quelque chose qui déterminait une qualité. Alors que pour moi, pas du tout, mais bref. Ouais, et donc tu disais, toi, sur tes parties.
Et oui, moi, je te disais aussi, par contre, ce qu'il faut bien faire attention, et tu l'as dit, ça c'est intéressant. T'es pas dans un. Enfin, si, c'est un jeu de pli, mais c'est pas ça le cœur, parce qu'en fait, ce qui est le cœur, c'est tes pouvoirs, en fait. Tu vois, si tu pars dans l'idée, c'est un jeu de pli, bah t'es assez déçu, parce que. Enfin, assez déçu. Non, t'es pas déçu, mais tu vois, moi, je pense, parmi mes jeux auxquels
ça peut décevoir des attentes, quoi.
C'est ça. Je pense Niet ou Le Roi des Nains, et où, tu sais, on a un pouvoir. Enfin, il y a des règles pour cette manche, et ok, on a tous les mêmes règles, et donc on essaye tous de machin. Alors que là, t'as beaucoup moins cette espèce de contrôle, parce qu'en fait, faire attention à tous les pouvoirs de tout le monde sur les 8 plis qui vont se faire dans la manche, c'est pas complètement possible, en fait. C'est surtout l'idée du, on a des pouvoirs chacun différents. Vu que ça, c'est compliqué, et ben, au milieu, il y a un truc très simple qui est un jeu de plis, mais tu vois, je pense que c'est, si t'attends un jeu de plis, tu vas être déçu. Si t'attends un jeu de pouvoir, tu te dis « Ah, c'est cool !» Et il se trouve que la mécanique des plis vient appuyer ses pouvoirs, en fait.
Ouais, ça aurait pu être une autre mécanique, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont bien aimé le jeu de plis, ça marchait et tout, mais en fait, ça pourrait être un peu n'importe quoi, on s'en fout un peu. Et tu vois, il y a un autre jeu qui est sorti, je sais pas si tu as joué, Pili Pili, chez ATM Gaming, qui c'est un jeu d'ambiance. Ouais. Qui se résout comme des plis, mais là il y a eu les mêmes retours de ah j'y allais pour un jeu de plis, j'étais très déçu. Alors le jeu est beaucoup moins bien qu'Origin Story, il est pas terrible, il est moyen quoi, il a quand même des bonnes idées, mais du coup c'est vraiment un pur jeu d'ambiance qui a ses problèmes en tant que jeu d'ambiance, mais où si t'y vas en espérant jouer à une belote, bah en fait évidemment que ça va pas être le cas. Et là, alors pas pour les mêmes raisons pour Origin Story, mais c'est un peu pareil, c'est un problème d'attente en fait et de promesses et de comment tu les accueilles. Et t'as pas été déçu des pouvoirs?
Non, par contre ça, non.
Parce que moi, c'est des cas que j'ai eu. En fait, il y a des... Et c'est quelque chose qui est reproché au jeu aussi. C'est que à la fin, le score de chacun, tu t'en fous un peu. Parce qu'en fait, un peu comme ça avait été reproché à Tapestry à l'époque, il y a une forme de déséquilibre. Il y a des pouvoirs vraiment beaucoup plus stables en termes de puissance. Il y en a qui sont un peu plus chiants, un peu moins rigolos, un peu plus rares. Alors quand ils sont rares et que c'est compensé par être très fort, c'est pas de souci. Mais moi, j'ai quand même eu des parties, alors pas moi personnellement, mais des personnes autour de la table, qui, sur 5 manches, tu vois, il y en a au moins 3 où ils trouvaient que leurs 2 pouvoirs étaient nuls, et où du coup, c'est vachement déceptif. Et alors, le côté déséquilibre, moi, ça, j'en ai rien à foutre. En général, c'est pareil, c'est des critiques de personnes, je trouve, en tout cas. Alors, on peut attendre d'un éditeur qui peaufine son jeu, qui le travaille, qui le lâche pas sans l'avoir développé, etc. Conclure que le déséquilibre est du manque de travail, c'est pas forcément le cas, ça peut être une vision, une volonté de l'auteur et ou de l'éditeur de dire en fait ça va créer des situations. Effectivement, ça va pas rouler tout le temps, il y a des parties qui vont foirer, mais par contre les parties qui vont marcher, elles vont marcher de ouf. Moi, c'est quelque chose que je respecte. Tu vois, il y a eu beaucoup de critiques sur Tapestry à l'époque, que je trouve pas très justifiées. Enfin, c'est pas que je les trouve pas justifiées, il y avait sûrement des déséquilibres, mais est-ce que ça changeait l'essence du jeu? Je pense pas. Là, pareil, tu vois, les critiques sur « Ah, il y a des pouvoirs forts, il y en a qui sont moins bien. » Ok, bon, soit. Par contre, le résultat, c'est que des fois, il y a quand même un peu trop souvent à mon goût des personnes qui se sont dit « Franchement, là, je choisis entre la peste et le choléra, mon pouvoir, je dois en prendre un, je vais le prendre, mais franchement, ils sont tous les deux nuls. » Et c'est pour ça que je te demandais s'il n'y avait pas eu de déception vraiment sur les pouvoirs. Même les pouvoirs finaux, hein, y en a qui sont moins drôles que d'autres quand même. Hein. La plupart sont vraiment excellents, mais y en a 2-3 quand même où t'es là et tu te dis ah pff, bah je sais que je vais pas le prendre. En fait, je le prendrai jamais s'il est parmi les deux parce que je le trouve pas drôle. Ce qui est un peu dommage toujours. Mais bon, ça reste assez limité en fait. Dans ce que j'appelle les jeux à build, c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est raté potentiel. Tu vois, dans Miams, c'est déjà le cas. Dans Miams, tu peux avoir une partie où vraiment tu te fais rouler dessus et t'as beau faire tout le temps les bons choix, bah en fait ça se passera pas bien parce que t'arrives pas à te faire ton build. Et pour sortir du jeu de société, bah un Balatro ou plein de roguelite en fait, où tu vas avoir ce qu'on appelle une run, où tu vas commencer, et tu vas avoir des bonus, des machins, des trucs, et il y a des runs qui semblent perdus d'avance, tu vois, où tu te dis, bon bah là, je vais la faire, parce que voilà, ou bien je la recommence, ou bien je la fais, mais je sais que c'est pas ça qui va me mener à la fin. Des fois, t'as des surprises, et c'est cool, mais des fois, et souvent, quand t'as l'habitude de ce genre de jeu, c'est un peu inhérent à ce genre de jeu, en fait. Et c'est à la fois grave et pas grave, tu vois, parce que dans Origin Story, la partie peut quand même être un petit peu longue, entre guillemets, hein, ça va jamais dépasser l'heure. Là où dans un jeu vidéo où t'es tout seul, tu peux te dire, bon bah je relance ma run, tant pis, je perds tout de suite, et puis je repars pour être sûr de mieux faire. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai tendance à pardonner. Dans Miams aussi, et pourtant Miams, c'est souvent effectivement que t'as des parties qui flopent. Je sais pas, je me dis que c'est un peu le prix à payer pour avoir des moments formidables, en fait, tu vois, et des trucs où vraiment c'est ultra satisfaisant, bah faut passer par parfois des trucs où ça floppe et où... Bon bah cette partie elle sera pas pour moi et tant pis.
Moi je trouve que ça va au vu de la durée en fait. Tu vois tu le trouves quand même long et moi je trouve que pas tant que ça parce que tu sais des fois où il y a aussi le moment où tu te dis ah c'est un peu perdu mais du coup t'essayes de te dire je vais faire un truc un peu de ouf. Enfin, tu vois je vais trouver le moyen de vraiment m'en servir de ce truc là. Ça me fera pas gagner mais je vais bien le jouer et du coup ça va. Enfin ouais. Tu vois je vais essayer de trouver un moyen de faire voir que ce pouvoir là en fait il est pas forcément nul et que enfin tu vois je m'arrange pour essayer de créer des conditions. Pour arriver et du coup effectivement mon objectif n'est plus de gagner la partie mais de bien me mettre en relation avec les pouvoirs pris quoi.
Ouais après ça c'est vraiment très propre à chaque personne. Moi je sais que c'est quelque chose que j'arrive bien à faire en général quand je sens que je vais pas gagner. En fait j'essaye toujours quand même de me réjouir de faire au mieux à chaque moment. Et il y a des personnes je sais qui sachant que le but final bah ça va être nul bah se désimplique un peu de la partie, se désengage un peu. C'est quelque chose que je comprends psychologiquement, tu vois. Et qui du coup bah en fait joue un peu en automatique en disant bah de toute façon là je peux rien faire en fait, la partie elle est flinguée et parfois ça va être le cas dans Origin Story et du coup il faut réussir à se remotiver soi-même en trouvant des espèces d'enjeux à moyen terme et très personnels plus que le gain de la partie. Mais effectivement tu l'as dit hein, je sais que nous sur notre partie de découverte c'est Cyrus notamment, il était quand même bien en retard au niveau des points et en fait sur son pouvoir final il a réussi à remonter complètement de fou et il est vraiment arrivé au même score que tout le monde à peu près à la fin quoi et tu vois sur un tour il a réussi à faire un truc de fou quoi donc ça reste possible. Après ça reste thématique hein, t'as des persos, les héros et les héroïnes c'est pas forcément tous des Spider-Man, c'est pas tous des Iron Man, c'est pas toutes des Captain Marvel, t'as des personnes beaucoup plus lambda avec des pouvoirs beaucoup plus inutiles ou beaucoup plus anodins, ça en fait pas d'elle des personnes inutiles ou anodines, tu vois, c'est possible que t'aies une héroïne qui en fait, bon bah c'est une héroïne mineure, ouais. Tu vois, de Marvel qu'on n'a jamais vu dans les films, qui a été perdue dans une série sur Disney+, qui a eu une saison arrêtée après coup. Et tu l'as dit aussi, c'est que ça reste ponctuel, parce que quand même, dans l'ensemble, les pouvoirs sont vraiment très très cool. C'est là que je dis que c'est un jeu à spoil et tout. Et on sent que ça pourrait être utile, alors peut-être pas dans cette partie, mais selon les circonstances, tu vois, tu te dis, ah bah là, je vais peut-être pouvoir l'utiliser. Et ça se voit en fait, ça, dans les moments de révélation des pouvoirs, où il y a tout le monde qui réagit de manière assez forte en disant « Waouh, ton pouvoir est super pété !» Et tout le monde dit ça, en fait. Et encore plus, évidemment, avec la dernière manche où t'as la révélation finale du super pouvoir. T'es vraiment « Waouh, c'est quoi ton pouvoir ? Waouh, il est super fort !» Et tu vois, t'as toujours l'impression que le pouvoir des autres est meilleur que le tien. Ce qui est pas vrai, en fait, mais c'est très bon signe, en général, quand il y a ces interactions qui naissent autour de la table, je trouve. Parce que ça montre que les pouvoirs sont bien, tu vois, dans Miams, c'est un peu le cas où, quand tu révèles une carte dans la rivière, tout le monde dit « Allez, c'est complètement pété, ton truc !» Et en général, pour moi, c'est bon signe, si tout est pété, rien ne l'est, tu vois. Et ouais, et moi, c'est quelque chose que j'aime bien, en général, c'est pour ça que c'est des jeux que j'appelle spoil de contenu. Parfois, ça peut rejoindre le spoil narratif, le spoil de contenu, mais c'est vraiment des spoils purement de dynamique de jeu, et tu vois, Order Overload, pour moi, c'est un jeu à spoil de ouf. Je sais pas, t'as déjà joué à Order Overload Café, ouais.
Oui.
Ouais, voilà, bah moi, tu vois, je dis jamais les cartes qu'il va y avoir dedans, parce qu'en fait, tu sais, quand tout le monde a la tête dans sa main, et entend un truc qu'ils ont jamais entendu, et tout le monde est là, pfff, allez, bande de bâtards, tu vois.
C'est... Ou avec l'adjectif supplémentaire où tu te fais « Ah oh non, il y a ça aussi à se souvenir. »
Mais oui, c'est ça. et du coup, ouais, moi, je sais que j'aime bien garder ça comme surprise. Et il y avait ça dans Miams aussi, tu vois. Je monte jamais les cartes avant de jouer à Miams. Et il y a aussi ce deck d'événements qui rejoint complètement ça. De base, alors la règle dit clairement, je sais pas si les Français ont fait pareil, mais ils disent « Faites ce que vous voulez, mettez-en un si vous voulez à toutes les manches. » Mais normalement, il est là que pour la troisième manche. Donc en fait, en plein milieu de la partie, puisqu'il y en a cinq, et c'est une manche qui va modifier les règles. Et de manière assez forte, tu vois, parce qu'on modifie déjà les règles tous avec nos pouvoirs. Mais en plus, là, en manche 3, tu vas avoir un événement qui va te dire, bah là, vous jouez en équipe, ou bah là, il se passe ci, là, il se passe ça, tu vois, enfin, il se passe des trucs. Là encore, je vais pas le dire, parce que d'une, j'ai pas une bonne mémoire, mais parce que deux, c'est bien de les découvrir. Mais là aussi, il y a un côté où le deck est quand même assez important pour ne l'utiliser qu'une fois dans la partie. Et je trouve que c'est vraiment très bienvenu, moi, de le mettre clos au tour 3, déjà parce que tu vas avoir une surprise particulière dans chaque partie, pendant assez longtemps. Et de deux, parce qu'en fait... Alors même si moi aussi je trouve que le jeu est pas long, hein, quand je parlais de longueur, c'est si tu sens que t'es mal parti et que tu te fais chier en fait, ou ça peut, n'importe quel jeu peut devenir très long. En fait là, bon moi je trouve pas le jeu dans l'absolu long, je trouve que le rythme est bon, mais en plus t'as ce tour 3, pouf, où il y a une petite règle, et tu vois c'est en plein milieu de la partie, donc en fait t'as une espèce de rupture dans le rythme, tu vois, comme va être créé une série ou comme va être créé un film, où bah en fait il y a des moments où ça, des creux en fait, mais les creux c'est pas forcément négatif, tu vois, il y a un moment où il faut maîtriser un rythme global de ton œuvre, bah là ils se disent bah vas-y là t'as commencé à maîtriser tes pouvoirs, boum on va mettre un truc spécial, et voilà, et puis après, boum, à la fin, t'as un pouvoir super spécial. Donc en fait, il y a une espèce de maîtrise comme ça du rythme qui évite un peu une forme de routine qui pourrait se mettre en place, même si je pense que vu les pouvoirs, elle se mettrait de toute façon pas en place, quoi. Mais ouais, cet événement, je trouve que c'est aussi une super idée, quoi, et que là aussi, tu vois la connaissance du monde du jeu de pli de la part des auteurs, quoi. Je suis pas rentré en détail dans les règles en expliquant un peu le déroulement. Là, je vais rentrer sur un truc très précis que je trouve, en fait, puisque le but, le sentiment de jeu, l'émotion que tu ressens, c'est la création de ce build et l'exploitation manche après manche lors de la phase de pli. Et en fait, je trouve que dans la phase qui n'est pas la phase de pli, donc ce qu'on pourrait trouver une phase un peu... tu sais, dans beaucoup de jeux, en fait, la phase de pli, ce serait le cœur du jeu et tout le reste, ce serait un peu accessoire, de la maintenance ou quoi. Bah là, en fait, la phase qui précède la phase de pli, bah en fait, c'est là que se situe le jeu, même si, du coup, la phase de... Enfin, j'ai jamais calculé, j'ai jamais timé, je sais pas si c'est à peu près aussi long la phase de pli que la phase de préparation, je pense pas, je pense que la phase de pli est quand même un peu plus longue, mais dans cette phase de préparation, je trouve que c'est un petit bijou d'orfèvrerie justement, je parlais de Knizia et de comment il arrive à mettre pile les bons espaces de décision, tu vois, au bon endroit, bah là je trouve que tout l'ordre des choses à faire, c'est exactement pile à la bonne place pour préparer la phase de pli au mieux et avec justement des choix à faire au bon moment pour que justement ces choix ils soient intéressants et qu'ils aient un enjeu. Donc là, je vais vous faire très précisément la préparation du tour. 1. On reçoit notre main de 8 cartes. Donc tu connais ce que t'as comme carte, tu sais si t'es une main forte ou faible. Tu connais ton build et celui des autres au moment où tu reçois tes mains. Ensuite, quand on connaît notre main, on reçoit deux pouvoirs. On en choisit un parmi les deux et on connaît notre main. Donc on sait quel type de manche on va faire, quel est notre potentiel de manche. Du coup, en sachant ça, tu vas prendre un pouvoir qui te paraît pertinent pour la manche à venir et qui peut-être va interagir avec d'autres pouvoirs. Quand tout le monde a choisi son pouvoir, tout le monde révèle son pouvoir. Et du coup, comme tout le monde révèle son pouvoir du fait des manches précédentes et de ce nouveau pouvoir, tu te dis « Ah ok, toi tu vas pas vouloir gagner des plis, ah ok, toi tu vas faire ci, ah toi tu vas faire ça. » Et ensuite, il y a un petit jeu de gestion où en fait, il y a une seule ressource dans le jeu qui est la stamina. Ces espèces de bulles de comics. Et on va devoir les répartir, qui est un petit temps mort, je trouve, mais parce que en gros, ces pouvoirs-là, on va rarement pouvoir tous les activer en même temps. Et il va falloir choisir, bon, bah alors à cette manche, je vais activer celui-là, je vais activer celui-ci, ça va être un pouvoir permanent, ça va être un pouvoir à l'activation, ça va être un one-shot ou un truc que je vais pouvoir activer deux fois dans la partie lors de certaines situations. Et tout le monde fait un petit peu ça. Ensuite, donc, on voit quels pouvoirs ont été activés. Donc ça confirme un peu ou non l'orientation qu'on se dit « Ah, toi, tu vas vouloir gagner des plis, toi, tu vas vouloir en perdre. Ah, toi, tu vas pouvoir gagner avec un 1 s'il y a un 13 qui a été joué, des trucs comme ça. » Donc là tu vois, en fait, tu prends les infos tout petit à petit comme ça. Et ensuite, le choix final, c'est « Est-ce que je veux gagner des plis ou est-ce que je veux en perdre ?» Mais en fait, ce choix final, il est précédé de plein de trucs qui, à chaque fois, te donnent le bon choix. C'est-à-dire que, pour choisir mon pouvoir, je connais ma main avant, donc, tu vois, en fait, quand on dit, après, le jeu de pli, il est automatique, il est pas intéressant, en fait, les choix intéressants, ils se passent là, quoi. Et je trouve que, justement, là-dessus, ça a été... Alors, on peut se dire aussi, hein, que c'est bien la moindre des choses que d'avoir réussi à mettre les trucs dans le bon ordre, tu vois. Parce que, voilà. Mais c'est des micro-choix, mais je trouve ça super élégant quand tu l'analyses vraiment en termes de déroulé de cette préparation, de se dire, ah, bah, tu vois, là, il aurait suffi qu'ils aient inversé le choix des pouvoirs et la distribution des cartes pour que ce soit un peu moins bien. Ah, bah, tu vois, si, ou bien si on avait choisi le être super-héros ou super-vilain juste après la distribution des cartes, ça aurait encore été différent. Donc, tu vois, c'est vraiment des petits détails, mais t'es là et tu dis, ah, je pense que tous les bons choix ont été mis au bon endroit. Et que tout est à sa place, vraiment comme il faut. Et donc, ouais, ça, c'est quelque chose que moi, je trouve assez brillant dans cette préparation et que, tu vois, ils ont bien taffé ça, je trouve.
Mais tu sais, je trouve que ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux toujours revenir sur ce que tu pensais que ça allait se faire. Et du coup, tu prends aussi des informations à chaque fois, petit à petit, à la fois sur ce que toi, tu peux et ce que les autres peuvent, veulent, vont peut-être faire. Tu sais, c'est un petit côté aussi comme dans Niette, quand ouais. On prépare tous en disant « Bah moi, je veux pas que le verre soit l'atout. » Et donc, tu te fais « Ok, donc toi, t'as pas de verre. Ok. » Et tu vois, et chacun a posé son truc, et du coup, tu peux regarder le plateau en te disant « Ok, j'ai une idée de c'est quoi les forces en présence et quelles sont les dynamiques que chacun veut mettre en place. » Et donc, en fonction de ça, qu'est-ce que moi, je vais jouer, faire et vers quoi je vais me lancer. Et du coup, je trouve ça effectivement hyper intéressant et pas juste, bah, chacun fait tous ses choix dans son coin et boum, on révèle tout d'un coup, tu vois, et bah, on va voir.
En fait, le truc, c'est que tu vas te faire ton build pour la partie, mais tu vas te faire un build aussi pour chaque manche, du fait de cette espèce de petit jeu de gestion là avec les ressources. Chaque manche va pas forcément se ressembler, parce que à chaque manche, tu vas avoir une main différente. Donc évidemment, il faut que tu crées la flexibilité de pouvoir t'adapter et te dire, là, j'active ce pouvoir, là, plutôt à la manche suivante, j'active plutôt celui-là. Ou bien tu pars vraiment monomaniaque sur un truc, mais tu te dis, si on me distribue la mauvaise main, je vais complètement rater. Mais c'est un pari que je fais. Et du coup, je trouve que vraiment le jeu, en fait, tu vois, quand on dit il y a pas de contrôle dans le jeu de pli, parce qu'il y a plein de pouvoirs qui se partent dans tous les sens, et puis il y a plein de cartes qui sont pas distribuées, en fait le contrôle il est avant, et je trouve que t'as vraiment beaucoup de contrôle avant, et que le jeu te donne toutes les armes pour avoir ce contrôle et ses choix maîtrisés. Là où ça va peut-être créer des frustrations, c'est que si on joue à 4-5 notamment, prendre en compte les pouvoirs de tout le monde, que ce soit avant la manche ou pendant la phase de pli, c'est assez délicat, je trouve. Même si t'es pas obligé de tout savoir, tu vois, comme tu l'as dit, t'essaies de voir un peu les forces en présence, la direction globale, t'es pas obligé de savoir exactement le détail de tous les pouvoirs. Il y a quand même quelques fois où t'es là et où tu te fais avoir parce que t'avais oublié que tel truc pouvait se déclencher et tout. Moi, ça m'a jamais dérangé, mais c'est un peu la conséquence de avoir autant de pouvoirs. Là où dans Magical Athlete, tu vois, comme il y a juste... par exemple, 5 personnes qui courent, c'est 5 pouvoirs. Alors que là, peut y en avoir vraiment beaucoup plus. Et je sais que ça, c'est un truc qui avait soulevé Cyrus, qui espérait voir se dissoudre un peu dans une ambiance plus posée qu'à Essen. Alors évidemment, c'est un peu moins le cas. T'es un peu plus au calme, mais je trouve quand même que c'est difficile de vraiment se rappeler un peu de tout. Je sais pas combien t'as joué, toi, mais...
À 4 et à 3, ouais. Si, moi aussi, je le ressens comme toi. Moi aussi, j'ai du mal à complètement... tu vois, là, j'ai quand même j'ai un sentiment de contrôle, mais qui n'est pas jusqu'au bout, effectivement. Il y a un truc où, tout à coup, je me fais « Ah ouais, c'est vrai, il a ce truc-là. »
Et là, ça peut être frustrant pendant la phase de pli où t'es sûr d'avoir fait le bon coup. Et en fait, c'est juste parce qu'il y avait trop d'infos. Et du coup, t'as pas tout pu les intérioriser. Et du coup, en fait, tu te fais avoir. Mais c'est juste parce que t'avais oublié un truc et pas... Alors là, tu peux autoriser le rollback, mais dans un jeu de pli, c'est assez difficile, tu vois. Donc, t'es là et tu fais avoir, mais c'est trop bête, quoi. En fait, c'est pas parce que t'as mal joué, c'est pas parce que t'as fait les mauvais choix, c'est juste qu'il y avait trop d'infos. Et ça va être de plus en plus le cas dans la partie, puisqu'on va avoir de plus en plus de pouvoirs. Ça, c'est le prix à payer aussi pour avoir ce jeu explosif et avec autant de pouvoirs en même temps, quoi. Tu vois, moi, je le vois pas comme un point négatif, mais c'est malheureusement un critère du jeu, quoi.
Oui, c'est ça.
Et du coup, je sais pas si t'as toi quelque chose à rajouter. Moi, je vais dire après un petit mot sur le solo ou le jeu à deux que j'ai pu essayer. Mais je sais pas si toi tu veux rajouter un petit truc avant que je conclue là-dessus.
Moi, je repensais juste par rapport à ce quand tu disais là, tu vois, le bon agencement dans quand est-ce que tu mets l'événement, tu le mets à la moitié sur ces 5 plis, sur ces 5 manches, ce genre de choses. Et je repensais à ce que tu disais sur qu'est-ce que Jamie Stegmaier il est venu faire là-dessus. Je pense que c'est un mec qui aime revenir sur des concepts qu'il trouve forts et sur lequel il se dit ah ouais mais peut-être qu'il faudrait rejouer ça. Je dis ça et je repense à ça, notamment à cause de Red Rising, dont tu te souviens, il disait clairement merci à
Fantasy
Realms, qui est la base de ce jeu, mais moi je voulais étoffer ou rajouter des choses. Alors après, on aime ou pas, on pense que c'est boursouflé ou pas, mais tu vois qui fait pas de plagiat, qui dit ah oui ça c'est très bien, je reprends. D'ailleurs je vous le dis, je reprends de là et je pousse, je continue un truc que je trouvais intéressant, quoi. Et je me demande si, tu vois, dans la question de l'apport par rapport à Pete Visinger, est-ce que c'est pas ça qui vient apporter.
Ouais, après je sais pas à quel point lui joue à des jeux de pli en fait, Stegmaier, et à quel point, parce que tu vois, ça pourrait être très vrai dans les pouvoirs, justement, de dire ah j'ai adoré ça dans tel jeu de Taiki Shinzawa, mais je vais pas faire tout mon jeu, ça va juste être un pouvoir, mais du coup ça s'inspire de ça, tu vois, un côté comment on appelle ça, tu sais, les moines qui réécrivent par-dessus les trucs,
ouais.
Ça a un nom, mais je sais plus. Et ce que tu dis est très vrai parce que je sais pas si t'as déjà regardé des vidéos de YouTube de Jamie Stegmaier. Son format principal, c'est My Favorite Mechanism. Alors c'est souvent aussi l'occasion de faire de la promo et tout pour ces jeux, ce qui m'emmerde un peu. Mais en fait, il prend un jeu et il dit « ma mécanique préférée dans ce jeu, c'était ça ». Et du coup, tu vois, ça va très bien avec l'idée de isoler un élément d'un autre jeu et puis peut-être le remettre dans un de ces jeux, quoi, enfin, ou un jeu qu'il édite en tout cas. Je trouve que ta réflexion est pertinente vis-à-vis de ce qu'il donne à voir en tant que création de contenu, quoi. Donc, ouais, bah, sinon, pour conclure, avant de passer vite fait sur le solo et le jeu à deux qui sont un peu spécifiques, du coup, je trouve que même si ça peut pêcher ici et là, il y a vraiment le contrôle qui existe dans la préparation de cette phase-là, dans la phase de préparation, et que le jeu, justement, il offre pas mal d'outils pour que les choix soient intéressants et placés au bon endroit. Évidemment, ça marche pas toujours. Évidemment, ça peut être le bordel, que ce soit, enfin, surtout pendant le jeu. Mais clairement, tu vois, enfin, moi, je le rapproche vraiment d'un jeu comme Présage aussi, qui était en fait pas un jeu de défausse ni un jeu de pli, et pourtant, c'est un jeu où le but c'est de se défausser et c'est une structure de pli. Mais c'est pas un jeu de défausse ni un jeu de pli Présage. Yams, c'est pas un Yahtzee non plus. En fait, tout ça, c'est des jeux de cartes à pouvoir. C'est surtout ça. C'est pas, ça se sert d'autres choses, d'autres genres pour faire émerger les émotions qu'ils veulent faire passer. Mais leur essence, c'est d'être des jeux de cartes à pouvoir. Et évidemment, si tu y vas jouer à Présage comme tu veux jouer au Président, ça marchera pas. Si tu veux jouer à Miams comme tu veux jouer à Mille-Savoir, ça marchera pas. Et Origin Story, si tu veux y jouer comme au Whist, ça marchera pas non plus. Par contre, si tu y vas en aimant Rencontre Cosmique, en aimant Magical Last Hit, qui est sorti après la réédition là de CMYK, mais c'est un jeu de 2003. Si tu y vas avec ce genre, soit d'attente, soit de kiff, parce que tu peux avoir des attentes, être déçu de que ce soit pas un jeu de pli, mais qui fait en fait l'œuvre finale, tu vois. On s'en fout que ce soit un bon jeu de pli ou quoi. Ce qui est important, c'est que ce soit un bon jeu à la fin. Et pour moi, ouais, c'est un jeu vraiment super, qui sait où il va, qui se donne les moyens pour y aller. Tu donnes vraiment de l'identité à ton personnage, à la fois sur l'ensemble de la partie et puis sur chacune des manches. Et cette identité là, tu essaieras vraiment de l'employer au mieux pour gagner des points, parce que bah, c'est le but du jeu et que ça se transforme par un jeu de pli qui lui est assez classique. Mais du coup, le jeu de pli, c'est pas une finalité, c'est un élément vraiment au service des émotions qui est proposé par Origin Story. Et ces émotions-là, c'est avoir un jeu qui te soit propre et qui te propose une montée en puissance avec justement une apothéose finale. Donc ça, c'est mon avis sur Origin Story dans sa principale configuration qui est de 3 à 5. Je dis juste un mot, très très vite, sur le solo et sur le jeu à 2 que j'ai pu essayer, que j'avais pas pu essayer à l'époque. Le solo est pas... Bah, tu sais, ils ont leurs automas, là, de Stegmaier, là, toujours. Alors, c'est toujours chiant, les automas, parce qu'il faut vérifier si ça se passe, alors il se passe ci, il se passe ça. Celui-là, c'est pas le pire qu'ils aient fait. Moi, j'en ai fait une partie où tu affrontes deux adversaires. Alors, je préfère le... Enfin, tu joues... Enfin, ils vont marquer des points, tes deux adversaires. Je préfère ça plutôt que des espèces de scores à battre. Et il y a quand même un truc intéressant dans le solo, c'est que tes deux adversaires ne sont pas amis entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait... T'as une mécanique de jeu, notamment, qui est originale. Je parle pas de la résolution ou quoi, qui a ses spécificités. Mais t'as un truc où, alors, j'ai fait qu'une partie il y a un certain temps, donc je me rappelle plus exactement, mais l'idée, ça m'a fait penser à Bestioles en guerre. Tu peux te rendre à un adversaire. Donc tu peux dire, bah, ok, je me rends. En fait, les deux adversaires fonctionnent pas exactement de la même manière, mais ça va lui permettre de gagner la manche et d'éviter que l'autre adversaire ne marque trop de points. Et du coup, en fait, t'as une espèce de dynamique où tu te dis, en fait, là, mieux vaut que je lui donne des points à lui pour éviter que l'autre en gagne trop, parce que c'est comme ça que je pourrais me sortir à la fin. Et je trouve que se rendre à un automat, je trouve ça assez original, tu vois, et l'effet que ça... J'ai plus les détails de comment ça marche, mais ce truc-là, je trouvais ça assez original, en tout cas. Et après, dans ma partie, c'est fonctionnel, hein, c'est... Voilà, mais bon... Ne prenez pas Origin Story pour jouer en solo ou à deux, hein. C'est quand même principalement un jeu à 3 à 5, mais le solo a cette originalité. Le jeu à deux est assez intéressant. Moi, vraiment, je l'ai essayé par acquis de conscience, et puis au début, parce que les premières configurations auxquelles j'ai pu jouer, c'était à deux. Mais vraiment, tu sais, dans les jeux comme ça de 1 à 5 ou de 2 à 5, les jeux de pli, c'est toujours, ouais, laisse tomber, quoi. Enfin, si le jeu a pas été designé pour deux, tu vois, on parlait de John Hill quand on a fait le Que reste-t-il de nos amours, qui est spécialiste des jeux à deux. Alors, en fait, souvent, c'est un pis-aller, c'est une variante un peu claquée, qu'ils ont mis parce qu'il faut vendre le jeu, donc on va le vendre à deux. Là, c'est pas la meilleure config, mais c'est quand même pas inintéressant. En fait, le sentiment de jeu va être assez différent, parce que tu vas avoir un sidekick qui va avoir une main de 8 cartes comme toi, mais dont deux vont être visibles par tout le monde, par toi et par ton adversaire. Et donc, en fait, je vais jouer, le sidekick de mon adversaire va jouer, mon sidekick va jouer, par exemple, si je mène. Et ils doivent respecter les règles de suivi, ils ont pas de pouvoir, ils peuvent pas gagner de pli. Mais du coup, en fait, si ton sidekick gagne le pli, c'est comme si toi, tu l'avais gagné. Et en fait, ça crée un truc un peu plus puzzle, parce que je sais que si je joue cette couleur... Toi, tu vas pouvoir jouer celle-ci parce qu'elle est visible avec ton sidekick. Et moi, j'ai 6, mais j'ai de l'atout et j'ai pas cette couleur. Enfin, tu vois l'espèce de puzzle que ça crée. Il y a un petit jeu ouvert de 4 cartes, mais ça suffit à te donner des infos sur qu'est-ce qui va pouvoir se passer, comment tu vas pouvoir un peu casser le jeu de l'autre. Donc, après, le reste du jeu, les pouvoirs sont beaucoup plus lisibles puisqu'il y a que deux personnes qui ont des pouvoirs. Donc, c'est beaucoup plus simple d'envisager l'adversaire. Et ça donne quand même un feeling de jeu à 4. Moins bien qu'à 4 quand même. Mais il a son sentiment propre, en fait, le jeu à 2. Un peu plus puzzle, comme dit, que tu vois, les gens qui aiment pas le chaos ou quoi, là, ils ont des éléments ouverts sur lesquels s'appuyer. Si vous jouez qu'à deux, je vous conseillerais pas le jeu, Par contre, si vous jouez à 2 et plus, je vous dirais quand même de peut-être essayer d'y jouer à 2 si vous avez envie l'occasion, parce que c'est loin d'être inintéressant. En tout cas, c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais, quoi. Toi, t'as pas joué à 2, je pense, hein, non plus. Hein. Tu t'es dit... Non, tu m'as dit 5 et 4.
Si, sur la première, t'as quand même fait... Si, on a fait vite fait, ouais. Et du coup, il parle d'Acolyte.
Acolyte, ouais, c'est ça, français, ok.
Ce qui fonctionne très bien, ouais. Mais c'était juste pour la découverte des mécaniques, et en fait, on n'a même pas été au bout de la partie, c'était juste, tu vois, on s'entraînait avant d'aller rejoindre l'association de jeu et de présenter le jeu à d'autres, quoi.
Ouais, d'avoir un peu le truc en tête. Main. Donc voilà, moi, pour Origin Story, comme dit, hein, si vous aviez écouté l'épisode d'Essen, il y a sûrement eu un peu de redite sur le sentiment global, j'ai un peu nuancé, apporté des précisions, mais en gros, ça n'a fait que conforter mon opinion, à la fois sur les points vraiment positifs. Je trouve que c'est vraiment un très très bon jeu sorti l'an dernier en VO, et puis un très bon jeu sorti là en VF, en toute petite quantité. Donc là, il est pas dispo à la caverne, je crois. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, je sais qu'ils ont pas eu beaucoup de... une implantation très forte, donc à voir quand est-ce que ça ressort, mais quand ça ressort, moi, je vous conseille de vous jeter dessus, si vous aimez les jeux à pouvoir. Après, si vous aimez que les jeux de pli un peu froid et avec beaucoup de contrôle, bah peut-être pas. Mais si vous aimez les jeux à pouvoir et à pouvoir qui ont de l'identité, de la personnalité et des parties où il y a des situations fortes, bah c'est vraiment une forte recommandation de ma part. Moi, c'était clairement un de mes jeux préférés de l'an dernier, quoi. Rien à rajouter ?
Non, rien de plus.
Alors je vais te laisser enchaîner. Cette fois, c'est du vrai Matago et on était avec O avec Origin Story. Et ben on va pouvoir suivre l'alphabet avec le P de Pictine.
Et oui, The Pictime, souvent dit Pictime tout court, mais dont le titre entier est The Pictime Rangers, un jeu de Scott Helms, et donc sorti chez Matago.
Est-ce que t'avais vu les... Non, t'as pas dû voir parce que t'es pas trop sur Insta et les réseaux sociaux, etc. Il y avait quelqu'un qui arrivait en boutique, « Donne-moi Tag Team », et l'autre sort « Pictime ». Non, pas « Pictime », « Tag Team », et l'autre sort « Take Time ». Tu vois, en fait, t'as une espèce de confusion qui s'est créée comme ça dans les derniers mois. Je trouvais ça rigolo.
Du coup, je disais, donc, un jeu de Scott Helms. Je refais un point sur Scott Helms, là, sur ce début. Parce que moi, j'ai pas beaucoup joué à ces jeux, mais il est quand même un auteur dont une partie des jeux ont connu un certain succès, du moins critique, en France. Et du coup, peut-être que toi ou les auditeurs pourraient faire des liens entre ce que je dis et ce que vous connaissez de lui. Mais pour vous le remettre, du coup, en tête, c'est l'auteur notamment de jeux solo, comme L'île des prédateurs, qui était dans les tout petits formats justement de chez Matago. T'avais Warp's Edge ou La Mort aux Trousses, aussi en jeu solo. Et puis là, tout dernièrement, si je dis pas de bêtises, Conservas, qui est,
ouais, tout à fait,
je crois, un jeu solo.
Professeur te dirait que c'est un mauvais auteur. Enfin, il y a beaucoup de jeux qu'il aime pas, principalement de Scott Helms.
Ouais.
Moi, je suis plutôt tolérant. J'ai beaucoup aimé D'Orger de Blé. Enfin, beaucoup. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien.
Très connu, donc, pour être l'auteur de la série des Tiny Epic, qui est quasiment un exercice de style, en fait, où à chaque fois il reprend et puis bah tiens, c'est marrant que tu cites le Pionfesseur, justement, il lui reconnaît, même s'il n'aime pas, il lui reconnaissait quand même des innovations pour le jeu Almanach aussi, un jeu de gestion que tu jouais, tu sais, dans un livre, et ce livre te permettait de jouer sur plusieurs plateaux et d'avancer comme ça.
Ah ouais.
Donc voilà, moi c'est seulement Almanach auquel j'ai joué de lui, sinon le reste de son œuvre, j'en ai des échos, je sais à quoi ça ressemble et comment ça se joue, mais voilà, rien de plus. Donc voilà, je ne vous ferai pas des retours permanents vers ces jeux-là, c'est juste, ayez ça en tête. Donc The Pictime Rangers, bah c'est un jeu coopératif. Tu as très très peu d'histoires qui enrobent le jeu. Ce qui est d'ailleurs assez déroutant au début. Tu sens qu'en fait t'as un auteur qui est très versé dans les mécaniques. Notamment, tu vois, je pense à la série des Tiny Epic, enfin voilà, ou une espèce de truc d'exercice de style. En fait, je dis qu'il y a très peu d'histoires parce que... Si tu veux, les règles, ça commence, t'as une première page, t'as la couverture, là, et t'as deux encarts, un où c'est marqué concept, et donc dedans, dans cette partie, dans cet encart, en fait, t'as le jeu, il t'explique comment le jeu se déroule, le déroulement de la manche en deux phases principales. Et il t'explique ça sera quoi les phases principales, avant même, tu vois, que voilà, c'est ça la première chose qu'on te donne. Et le deuxième encart, c'est marqué coopération, et là, tu vas avoir la thématique du jeu. Qui est, alors je peux vous le lire, hein, parce que c'est vraiment ces deux phrases, quoi. Vous incarnez une équipe de rangers dans un parc naturel qui travaille ensemble et tente de remplir des missions utiles ainsi que de veiller sur la faune. Si vous ne parvenez pas à compléter vos missions à temps, le parc fermera. Point d'exclamation, et c'est fini. On te parlera plus de machin et tout. Ils s'en foutent complètement à partir de là, c'est terminé. Donc tu vois, c'est assez étrange. Et ensuite, donc c'est un jeu, donc je vous dis, donc coopératif, où on joue sur un plateau. Et par contre, ce plateau là fait que grâce aux illustrations, ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce côté où l'histoire était très derrière et la thématique semble un peu lointaine et ils en ont rien à faire, ça devient moins abstrait grâce au travail d'illustration qui est fait par Crocotam et Samuel Bouvant. Donc ton plateau représente une vallée et des montagnes qui sont ce parc national. Et l'objectif dans ce jeu, c'est d'amener tes personnages d'un point A, c'est-à-dire là où ils sont, à un point B, là où tu as une mission. Et tous les... Donc il y a plein de points et qui pourront devenir des lieux de mission.
Il
n'y
a pas que A et B, hein, c'est important.
Oui, c'est ça, il n'y a pas que A et B.
Il y a les points A et B, mais il n'y a pas que cela.
Et toi, en fait, là, le premier sentiment que tu as, c'est un peu comme quand la première fois que tu arrives à Paris et que tu te retrouves devant un plan de métro... Et tu te dis, ok, donc je dois aller de là à là, et donc là il y a 50 lignes qui vont, et donc quel serait le chemin le mieux, le plus intelligent, machin. Et puis là, ce que le jeu ajoute en plus, c'est comme si tout à coup, en plus d'avoir la ligne de métro, tu voyais les horaires sur lesquels ils sont bondés, et où tu te dis, attends, ça c'est le chemin le plus court, mais là c'est pas une bonne idée, parce que vu qu'il est cette heure là, eh ben je ferais mieux de prendre l'autre, et là hop, et je ressors là, je reprends lui, et tac tac tac. Donc c'est vraiment ça l'essence du jeu.
Ce qui est étonnant parce que ce que tu dis est très éloigné de l'imagerie très très pédestre et très romantique de la randonnée que véhicule le plateau. Quoi.
Ben, c'est ça. Mais ça a un côté très utilitaire comme ça. Mais en fait, ce que tu fais, c'est que là, j'ai dit, t'as le système des horaires. Ce qu'il y a, c'est que t'as effectivement plein de couleurs ou parce que du coup, quand même, ils ont pensé à ceux qui ne voient pas les couleurs, t'as plein de petits signes qui font ces chemins et qui te permettent de comprendre si ça. Tu le fais en escalade, en marchant, en jeep, et voilà d'autres moyens de transport que tu pourrais avoir dans la montagne et sur lesquels tu vas du coup avancer en te disant ok, donc je vais à ce point là et ensuite là, et ben là je peux faire de l'escalade qui m'emmène à celui là. Derrière, je prends le canoë kayak et je redescends jusqu'ici et ainsi.
Tu fais de l'escalade ou pas? Enfin, t'as fait?
Moi, j'ai pas fait d'escalade. Non, non.
Non, parce que ça peut aussi rappeler des topos d'escalade où tu as les différentes voies avec les différentes couleurs de difficulté.
Bah, c'est ça. Et tu peux aussi penser au ski. Tu sais, quand tout à coup tu te dis ah ouais, donc là je prends la noire et après je prends la rouge et ensuite je prends voilà. Et donc tu penses ton chemin comme ça. Et c'est très, en plus, le jeu est bien édité de ce point de vue-là. Donc t'as ton petit personnage qui est posé et les endroits où tu dois faire une mission, en fait, donc toi tu récupères la petite carte qui te dit je dois aller à tel point, et tu récupères cette carte et tu enlèves de ton plateau personnel là où tu mets cette carte un petit drapeau et tu le places sur le plateau, ce qui fait que visuellement pour tout le monde c'est très clair, t'es le personnage rose, tu vas à un des deux drapeaux roses et donc on doit tous essayer d'imaginer. Ce qui va être très important pour la suite, que ce soit très visuel et que ce soit clair. Et aussi, encore une fois, ces petits drapeaux n'ont pas tous la même forme, pour que justement, si tu n'arrives pas à différencier les couleurs, du coup, tu peux... Donc le souci d'édition a été quand même plutôt bien foutu sur ce point-là.
C'est des vrais petits drapeaux en bois à la verticale, ce qui fait que moi, j'ai juste regardé un let's play, j'ai pas joué au jeu. Du coup, tu sais, dans les let's play, vu de dessus, toujours, ils les mettent à plat pour que ce soit plus lisible pour la caméra. Mais par contre, quand t'es en face du plateau, cette verticalité renforce le... Alors que c'était des jetons... de carton, tu vois, c'est moins lisible, alors que là, boum, tu vois tout de suite le drapeau rouge où il est, quoi.
Et donc, je disais, oui, on va sur des points, et alors là, il y a une chose qui nous manque, nous, en français, et qui certainement fait que ça devient un peu plus abstrait, parce que je disais le point A au point B, tu me disais, oui, il n'y a pas que le point A et le point B, c'est qu'effectivement, tous les points de jonction et les points où tu dois aller faire des missions ont des numéros ou des lettres. Qui vont de, je sais plus, de 1 à 6, et puis ensuite ça va de A à Z. Et en plus en montant, tu vois, en bas de la vallée, c'est les numéros, et ensuite, les premières lignes, c'est de A, B, C, D, et puis quand t'es tout en haut, t'es X, Y, Z, sur les pics des montagnes. Mais dans la version américaine, du coup, en fait, tu vois, par exemple, là, j'ai le V devant moi, et ben c'est Vortex Vista. Le L, c'est Lookout Lane. Et quand c'est les numéros, et ben j'ai, par exemple, le 1, c'est One Hawk. Donc un aigle. Et donc à chaque fois, en fait, pour eux, ça a plus de sens, ces lettres, parce que c'est à chaque fois lié à un nom de lieu, et du coup, tu vas sur ce lieu-là, alors que nous, en français, je suis pas sûr que si t'es américain ou anglophone, tu l'utilises, mais ce qui est sûr, c'est que on se parle entre nous en se disant « Ouais, je vais en V », vas-y, mets-moi le drapeau en L, et je passerai par... Voilà, on ne parle que comme ça. Alors que, à la différence, tu vois, par exemple, d'un pandémie, où du coup, ça crée un imaginaire où tout à coup, tu dis, oui, bah là, je vais à... Ah putain, ça tombe à Bangkok, et là, tu y en a un qui fait, ah ouais, Bangkok Dangerous, tu vois, en référence à un film ou quoi que ce soit, enfin, où on ne parle pas par... Enfin, on parle vraiment des lieux, et pas de numéros ou de lettres. Donc ça, c'est la première chose. Donc on va de mission en mission. Et là, première chose aussi intéressante, ces missions, on n'est pas sur un jeu coopératif à l'old school, à l'ancienne, comme ont pu en parler Cyrus et le Pionfesseur sur sortant le grand jeu sur Pandémie, justement, où tu as le tour des joueurs et ensuite le tour du méchant, entre guillemets, et qui du coup, donc c'est le jeu qui fait sa phase et qui fait quelque chose, te met des bâtons dans les roues et toi ensuite à ton tour tu vas essayer de les enlever. Là c'est beaucoup plus fluide que ça, donc on va sur les points pour réussir les missions. En fait, le fait d'être dessus fait que si je rejoins mon drapeau, paf, je récupère le drapeau et la carte et la mission est réussie. Mais ces cartes missions, en fait, c'est nous qui allons les chercher, et donc aller chercher entre guillemets les ennuis en allant dans un c'est tout simplement dans un refuge. Et donc l'idée, c'est tout à coup t'as le poste radio et là tu apprends que à tel endroit il faut aller réparer, il y a eu un souci, il y a quelque chose à faire. Et ce moment, donc déjà tu vois, du coup t'as pas il y a la phase c'est notre phase à nous et ensuite machin, c'est toi qui vas chercher à quel moment tu vas chercher des nouvelles missions. Et surtout, cette résolution des missions se fait à la manière de Danger 13, ou donc sa nouvelle réédition qui est Gangs of Tokyo. C'est-à-dire, il y en a un d'entre nous, donc celui qui prend 4 missions, ou moins si on a, en fonction des espaces qu'on a pour pouvoir se les distribuer. Il révèle la première, il regarde, et il n'a pas le droit de voir les autres, et il dit « Ok, bah cette mission-là, elle est pour toi. Parce que je pense que ça sera le plus simple pour toi, t'es le plus prêt, t'es le plus machin. » Mais tu vois, il n'a pas une information complète sur tout ce qui va tomber. Tout à coup, il en révèle une deuxième, et peut-être que la deuxième, en fait, elle est beaucoup plus simple pour celui à qui il vient déjà de distribuer la mission. Il se dit « Ah merde, j'aurais pas dû la donner à cette personne-là. » Donc, t'as une espèce de prise de risque là-dessus.
Ah, ça, c'est, moi, c'est une mécanique que j'aime beaucoup toujours, c'est les sentiments de jeu que j'aime bien, et qui sont un peu originaux dans le cadre d'un coopératif. Alors, c'est peut-être pas le premier à le faire, mais c'est quand même assez original d'avoir mis ça dans le coopératif, parce que, en général, tu vois, c'est plus des trucs de Texas où t'espères faire mal à quelqu'un et garder le truc bien pour toi. Là, t'aimerais bien être bien avec tout le monde, mais des fois, ça marche pas.
Bah oui, c'est ça. Et puis, des fois, tout à coup, tu sais, et le meilleur, c'est tout à coup, tu révèles la dernière, et bien sûr, c'est le Z, le mec est en 1, et tu lui donnes, et en lui disant, bah voilà, donc maintenant, tu iras tout en haut de la montagne, démerde-toi pour arriver là-haut, ce qui va être, bien sûr, plutôt compliqué. Mais, en même temps, ce qui est intéressant, tu vois, par rapport à l'adverse de Take That, c'est que, eh ben, tout le monde se met à sa place, parce que y a toujours un moment où on va un peu, pas chacun son tour, mais il est possible que tout le monde aille une fois dans un refuge. Tout le monde, enfin, des fois, t'as pas envie d'être à la place de celui qui va choisir, parce qu'en fait, tu sais bien que, il a pas la vision, donc, tu vois, il pense faire au mieux, et il espère seulement, quoi, que ça va bien sortir, et tout va bien se faire. Donc, effectivement, ça change cette partie-là. Donc, on a ça à gérer, donc les missions. Et puis, en plus de ça, on va devoir gérer aussi, il y a des zones, et on doit, dans chaque zone, repérer un animal. Et cet animal, du coup, on a des cartes, donc ce que je n'ai pas parlé, c'est on a des cartes chacun qui nous permettent de nous déplacer, qui me disent, je me monte de 2 en escalade, j'avance de 3 en marche, j'avance de 1 en jeep.
Un peu peut-être à la... Alors, si je me rappelle, Elfenland faisait un peu ça, où tu sais, il te fallait les bonnes cartes pour avancer à tel ou tel endroit, ou comme Day One, peut-être un petit peu aussi récemment, fait un petit peu ça.
Mais... C'est ça. Et là, du coup, t'as la double utilité, soit tu fais ça, soit tu l'utilises pour dire, mais je suis dans la zone où on peut voir un renard, j'ai une carte renard, je la défausse, et du coup on enlève de sur le plateau un petit jeton qui dit, c'est bon, le renard on l'a vu, et donc ça fait
on
partie
l'a vu.
De nos...
C'est pas on l'a chassé.
Non.
Parce que tu le retires quand même du plateau.
On l'a bien repéré, okay, il est toujours là. Plus tard dans le jeu, ça aura d'autres utilités, ces jetons, mais c'est... Bah non, t'es des rangers, et l'idée c'est plutôt d'aller vérifier dans cet habitat naturel, il existe bien toujours des animaux. Et donc on perd si on a trop de missions à réaliser et qu'on n'arrive pas à les gérer, et on a un nombre de manches limité, et on avance comme ça petit à petit, et donc on doit à la fin, avant que la dernière manche n'arrive, celle où le parc ferme, il faut avoir réglé tous les problèmes, avoir repéré tous les animaux, et là on a gagné. Maintenant, je veux revenir à la partie qui me semble le plus. Alors déjà, tu vois, le truc de distribution d'émissions un peu à la Gangs of Tokyo, je trouvais ça déjà et c'est effectivement innovant. Moi, ce que j'adore plus que tout, c'est le système de coopération dans la distribution des cartes. Donc les cartes qui nous permettent d'avancer ou qui nous permettent donc de voir les animaux, ce qui est vraiment le cœur du jeu, à ton tour tu joues des cartes ou quand tu t'arrêtes tu passes, bah, tout le monde a passé, la manche s'arrête. Donc ces cartes, en fait, on en pioche 4 au début d'une manche et je vais les distribuer équitablement à mes voisins de gauche et de droite. Le plus équitablement possible parce que petit à petit au fur des manches, des fois je peux me finir une manche en ayant gardé des cartes en main, et bah du coup... Je pioche mes 4, j'en avais gardé 3, ça fait 7. Il faudra que j'en donne 3 à un voisin de droite et 4 à un voisin de gauche. Alors déjà, ce qui est intéressant, ça veut dire que tu ne peux pas temporiser pour toi-même. Tu vois, des fois, tu pourrais te garder des cartes en te disant, bah là, j'en ai pas besoin, mais peut-être qu'à la prochaine manche, j'en aurai besoin. Bah non, t'es obligé de les distribuer. Ce que tu gardes, c'est pas tant pour toi, mais que pour tes voisins. Et en plus, pareil, ce que tu as en main, tu vas le distribuer à tes voisins. Et cette phase-là, tout comme la phase où on se distribuait, enfin, où il y en avait un qui distribuait les missions, se font dans le silence. On n'a pas le droit de se parler. Donc, mon voisin, alors on va prendre juste le cas de ma voisine de gauche. Ma voisine de gauche, je lui donne 2 cartes. Je sais que sa voisine, qui est à sa gauche encore, va lui en donner 2 autres. Donc, je sais quelles sont ses missions. J'essaye de l'envoyer au bon endroit, de lui permettre d'atteindre sa mission, tout en sachant que elle va peut-être avoir une autre partie, un complément de solution avec son autre voisine.
Ok, c'est une espèce de guessing coopératif, quoi, de connivence que tu essaies d'avoir avec la personne de l'autre côté de la table, quoi, si tu joues à
C'est
4,
ça.
quoi. La personne à ta diagonale, quoi.
La même personne à diagonale à chaque fois, à droite et à gauche. Et cette distribution, ce qui est aussi intéressant, c'est que pendant un instant dans le jeu, ta propre situation a complètement disparu. T'es définitivement concentré sur ce que vont pouvoir faire tes voisins et comment tu peux les aider au mieux. Et des fois même en plus où bah, tu leur passes un truc en disant bah ça va te servir à rien, mais je suis désolé. J'ai rien pour toi. Mais tu peux même pas le dire en plus. Et tu peux même pas, tu sais, se dire à son vo notre voisine en lui disant, vas-y, donne-lui des trucs bien parce que moi, ce que je vais lui filer, c'est vraiment, ça correspond pas à ce qu'elle doit faire, quoi. Mais ce que je trouve super, c'est que, du coup, la personne ensuite, donc après, tu récupères tes cartes, tu vois ce qu'on t'a donné et t'es un peu genre, oh là là, c'est génial. Ou au contraire, tu te dis, mais pourquoi j'ai ça? Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas le droit de se dire librement ce qu'on a en main. Quand on joue ensuite, on peut se dire, bah moi je peux facilement aller là, je peux, vous inquiétez pas, ça je vais le gérer, j'irai dans une station et machin. Et tu peux pas te dire, enfin tu vois, tu peux pas ensuite jouer à main ouverte. Ce qui
Ouais.
fait que tu peux jamais avoir de reproche de la part de quelqu'un, parce que il sait pas si t'as fait un mauvais choix et que t'as préféré donner à la voisine de gauche plutôt qu'au voisin de droite tel type de mouvement, alors qu'en fait ça aurait été plus juste de le faire ou tu vois plus approprié. En fait, on sait jamais. Et donc, on part toujours du principe que les autres ont fait au mieux avec ce qu'ils avaient comme information et avec ce qu'ils avaient en main, en fait. Mais t'as jamais aucun moyen de le vérifier et du coup, tu peux pas avoir ce truc du joueur alpha qui vient en faisant, mais non, là, c'est mal joué, là, il aurait fallu faire ça, ça, ça ou ça. Et du coup, ce que j'aime, moi, c'est que, alors du coup, je vais revenir sur un autre jeu du mois qu'il y a eu récemment, qui est justement Tech Time. Ou des fois, moi j'ai des problèmes avec ça, avec ce jeu-là. Je l'aime pas complètement.
Moi aussi, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes avec moi-même et ce jeu-là, et ma toxicité dans Tech Time.
Eh ben c'est ça, parce que tout à coup, au moment de, tu vois, on joue et quand on fait la résolution, on peut faire, bah ouais, tu vois, là on avait dit qu'il fallait pas faire ça, tu l'as fait, pourquoi t'as fait ça? Ben, tu peux sous-entendre aux
Ouais.
autres, t'as mal joué.
Ou dans Yubibo récemment aussi, où je suis très comme ça, je suis désolé pour mes partenaires de jeu, je dis mais là, tu faut que t'appuies plus en fait, appuie plus, là tu l'as mis au mauvais endroit sur ton doigt, vraiment, et tu sais, je me déteste à ce moment-là, mais tu sais, ça prend le dessus, et dans Tech Time aussi, t'es là, tu dis bah en fait là, non, fallait mettre un 6, t'as fait n'importe quoi, tu vois, et c'est très désagréable effectivement.
Et donc, il y a une communication qui est absente à certains moments, mais qui revient par la suite, et ça reste assez fluide entre nous. On est un peu plus proche d'un, dans un sens, d'un The Game ou d'un 50 missions, où tu peux pas complètement gueuler sur ton voisin, tu peux juste lui dire, bah ça serait cool que tu joues pas là, mais bon, je sais pas ce que t'as en main, donc bah, si t'es obligé, t'y vas, mais ça va, mais bon, voilà.
Ouais, Eternal Dex aussi faisait ça de manière un peu très très artificielle et un peu nulle. Parce que le problème avec ça... C'est tu joues pas à main ouverte, mais est-ce que t'as le droit de en fait quand le jeu est pas très 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 clair sur les, tu vois, moi j'adore The Crew pour ça parce que les contraintes de communication sont ultra cadrées et du coup il y a pas de place au doute, alors que quand le jeu te dit ouais faites ci pas ça machin, en fait t'es tout le temps un peu à flirter avec les limites, et auquel cas à la fin dans Eternal Dex, moi c'est en fait à un moment on a inventé le langage, donc en fait pourquoi on se dit pas ce qu'on a, et pourquoi on passe par des contraintes un peu artificielles, et en fait c'est super dur je trouve d'équilibrer le truc pour que ça fasse pas un peu idiot et que tu vois pas, enfin, et du coup, Pictim arrive quand même à pas rendre ça artificiel, ouais.
Non, ouais. Et puis, en plus, oui, comme je te disais, oui, c'est ça. Tu gueules pas sur les autres, et en plus, parce que tu sais pas s'ils ont fait des bons choix ou pas pour ce qu'ils ont fait pour toi, et toi, t'as eu tout un moment en plus où t'as pensé à eux. Et ce qui est génial aussi, c'est que le jeu le fait aussi pendant, en dehors de cette phase-là, tu le refais encore, parce que tu as une action spéciale sur ton... t'as un joker sur chacun d'entre nous, on a ça sur notre petit plateau individuel. Il y a que ça sur le plateau individuel, hein. T'as tes deux missions et ton petit joker, qui offre aux autres un déplacement de leur choix. Donc, tu vois, on se dit, tout à coup, je te dis, ah bah Flavien, là, il me manque juste un d'escalade pour pouvoir atteindre le point Z. Est-ce que tu peux retourner ton jeton? Et tu me dis ok.
J'ai aucun intérêt à le refuser parce que moi je pourrais pas l'utiliser pour moi-même, c'est
et
ça.
Et c'est ça. C'est que ces jetons-là, tu ne peux jamais t'en servir pour toi-même. C'est forcément pour les autres.
T'es obligé d'être altruiste,
en fait, dans ce jeu-là. En fait, tu ne fais que donner et espérer recevoir des trucs cool et te débrouiller avec ce que machin. Mais si, bien vu que, bien sûr, l'objectif est qu'on gagne tous ensemble, bah, t'essayes d'offrir le mieux possible aux autres. Et donc, d'ailleurs, quand je te disais tout à l'heure, tu peux pas thésauriser pour toi, garder une carte en disant, ah bah là, c'est une super carte, enfin, tu vois, ça me fait beaucoup avancer en marche, mais j'ai pas de marche. Par contre, tu peux regarder tes voisins en te disant, il n'y en a pas besoin maintenant, mais peut-être qu'il y en aura besoin plus tard, je la garde. Ou, à l'inverse, donc ce petit bonus-là qu'on offre aux autres, ce jeton qu'on retourne, je peux défausser des cartes, et il faut qu'il y ait que jusqu'à 4 symboles, pour le remettre en partie active. Et donc pouvoir de nouveau l'offrir aux autres. Et donc, t'es toujours dans cette tension du, est-ce que... En fait, je vais l'offrir, mais est-ce que je l'offre à n'importe qui pour un bonus, ou est-ce que je garde une carte un peu forte? Parce que quand même, tu vois, 4 déplacements, ça veut dire que pour avoir un bonus, c'est quand même cher payé. Il vaudrait mieux, à la limite, les donner à mes voisins. Mais je sais jamais, en fait, si c'est exactement le déplacement qu'il leur faudra. Et puis si on joue à 4 ou 5, peut-être que c'est les voisins d'en face avec qui j'ai pas d'interaction, sauf celle-là, qu'il faut aider à ce moment-là. Donc, t'as vraiment un esprit de coopération. Et là, on se retrouve, tu vois, en Rangers, en équipe de Rangers, dans ces trucs, où on va s'aider les uns les autres. Alors après, t'as des trucs plus qui sont plus banals, comme dans Pandémie, par exemple, si on est sur la même case, on peut s'échanger des cartes. Mais la plupart du temps, on se croise pas tant que ça, donc ça arrive pas si souvent que ça. Tu vois, c'est pas un truc que tu planifies comme tu peux le faire dans...
Ouais, c'est plus un effet d'opportunité, ouais.
C'est un effet d'opportunité. Mais t'es surtout, toujours, concentré à la fois, quand c'est ton tour, sur ton chemin à toi et comment est-ce que tu pourrais arriver. Donc, tu vois, ce truc, jeu du métro, où tu te dis, ah, ok, alors, y a tel et tel machin pour arriver là-bas. Et en même temps... en train de te dire, bah moi c'est pas optimal ce truc-là, est-ce que j'aurais pas intérêt à le garder? D'ailleurs, au prochain tour, l'autre va apparaître dans la région des castors, j'ai une carte là, ça lui sert à rien, sauf le fait qu'il y ait le castor, je suis sûr de lui offrir, vu qu'il le fait pas en ce moment, c'est qu'il doit pas l'avoir en main.
Ouais, ce qui compense, que tu disais au début aussi, le fait de recevoir des cartes où tu te dis, pff, je vais rien faire avec, en fait c'est pas grave, parce que tu vas pouvoir en faire profiter autrui si tu les gardes de toutes les manières que t'as dit là, que ce soit en les défaussant ou en les thésaurisant un petit peu, mais pas pour toi, mais pour les autres, quoi.
Et là, tu sens que t'as... du coup, ça offre une expérience coopérative, vraiment, vraiment coopérative. Tu vois, on est vraiment avec les autres, en équipe, et on se soutient, et pas avec un planificateur général qui est là et qui fait « Ok, alors, l'équipe, toi tu fais ça, et on y arrivera, et on va arriver au bout. » Donc le jeu propose ça. Alors après, de manière plus simple, bah le jeu te propose ensuite 5 niveaux de difficulté, donc tu as un avancement dans les règles, un peu plus. Comme de la même manière qu'Origin Story, il y a un mode solo, Alors moi, pour le coup, je ne l'ai absolument pas essayé.
Oui, c'est du puzzle, j'imagine, plus.
Mais oui, j'imagine que tu te retrouves plus à faire ton puzzle. Et puis, il y a un mode aussi pour jouer à deux joueurs, qui est pas intéressant, parce que, à la différence d'Origin Story, où tu vois, tu as ce système des acolytes, des sidekicks, qui font qu'ils jouent un peu avec toi, là, tu as... Donc, ouais, on avait ça aussi, ça me fait penser à Seven Wonders. Bah, tu as un troisième joueur virtuel, qu'on fait jouer parce que justement, on va pas se passer des cartes.
Entre nous deux, juste, ouais. Il faut qu'il y ait un troisième joueur fictif, quoi.
C'est ça, il faut un troisième joueur fictif. Donc c'est pas une configuration idéale, idéale. 3, 4, 5, ça tourne très bien. Sachant qu'en plus, ce qui est assez intéressant aussi dans le jeu, ce que j'ai pas dit, c'est les cartes. J'en joue la quantité que je veux. Mais une fois que je ne peux plus jouer d'action, je passe. Et donc des fois... Soit tout à coup tu veux faire un, tu vois, tu fais une très grosse avancée et puis tu découvres deux trois animaux et ensuite tu fais ok bah là j'ai fait tout ce que je voulais faire et à toi. Ou il y a des fois où tu fais attends peut-être que les autres vont me débloquer une situation en me donnant une nouvelle mission, en me donnant ça, et donc tu ne joues qu'une seule carte en te faisant ok je fais une petite action pour encore être dans la manche et encore pouvoir jouer, parce qu'une fois que tu passes t'as définitivement
On
passé.
peut quand même te demander ton jeton spécial quand t'as
Oui,
passé.
tu peux encore l'offrir. Donc t'es pas non plus complètement sorti, mais enfin tu vois, tu vas plus pouvoir jouer tes cartes, ça c'est certain. Et du coup, ça aussi c'est assez intéressant parce que les tours ne sont pas, tu vois, dans un, enfin prédéfinis en fait, il n'y a pas une durée du tour, ça peut être très très court. À toi de sentir et de te dire ah là ça serait bien. Bien sûr, c'est des parties où on, c'est des moments où on se parle, hein, on peut le dire en disant bah moi je te fais gaffe, hein, prochaine action, je vais repartir nous donner une mission, peut-être que reste là où t'es, parce que ce serait dommage que je te file une carte et que tu sois déjà parti trois cases plus loin, et que, bah dommage, faut que tu reviennes. Dernière chose, c'est... Je voudrais revenir sur... Donc tous les déplacements sont un peu les mêmes. Il y en a un spécial qui est l'hélicoptère, qui te permet de partir de n'importe quel point et de revenir à un refuge. Mais il y a... Et là, ça va rejoindre sur Origin Story. Il y a une action spéciale. Enfin, il y a un déplacement spécial et qui... a une personnalité et qui fait que je trouve l'immersion, elle est là, c'est le canoë-kayak. Parce que lui, tu ne peux, donc quand tu le prends, tu ne peux que descendre. Tu vas pas remonter le cours de la rivière avec ton canoë-kayak. Et en plus, donc déjà, tu vois, lui, il a un seul sens pour, alors que tous les autres, tu peux les faire dans n'importe quel sens. Donc il a un seul sens de tourner et tu peux t'arrêter quand tu veux. Avec un, tu vois, il n'y a pas, lui, il n'a pas un, deux ou trois de déplacement, c'est je prends la rivière, et je m'arrête, tu vois, et je vais descendre comme un malade, et je m'arrête si je veux tout en bas, ou à la moitié, ou j'ai avancé de deux, ou ainsi de suite.
Ça me fait penser à... T'as sûrement pas joué à Leviathan Wild, l'espèce de Shadow of the Colossus coopératif aussi. Et t'as une mécanique comme ça de... Je sais plus si c'est glide ou un truc où en fait tu peux te laisser tomber du Léviathan et puis tu t'arrêtes quand tu veux aussi, ou bien tu peux glisser sur le Léviathan à certains moments et sur pas mal de cases et où ça te donne le sentiment de surfer un peu. qui est assez cool aussi, où là aussi t'as le choix un peu de t'arrêter un peu quand tu veux, quoi.
Et du coup, tu vois, le trajet, alors il y en a soit un, soit deux, en fonction de si on joue à trois, ou, enfin, parce qu'il y a deux plateaux, mais ce trajet-là, que tu ne peux prendre que dans un sens et qui t'amène plus ou moins loin, t'as l'impression que c'est la colonne vertébrale de toute la map, et que faut vraiment que tu penses toujours à ça en te disant, attends, parce qu'en plus, il y a des passages, c'est, tu vois, faut que tu fasses un gros contour, comme, et là, ça rejoint ce que tu peux vivre en montagne, c'est, bah, ça serait plus simple par là, mais là, ça passe pas, en fait. Faut que je fasse un détour, je ne peux pas remonter la rivière à contre-courant, je vais devoir faire un détour, alors que si j'avais dû le faire dans l'autre sens, c'était tellement plus simple. La descente était tellement plus simple. Et t'as bien ce système aussi, et ça ils l'ont respecté sur la carte aussi, l'idée que plus tu montes haut, plus tu vas sur un pic enneigé, moins il y a de chemin, plus c'est difficile, tu vois, t'as pas 36 manières d'y accéder en fait, c'est assez spécifique. Et donc en plus, t'as un truc où tout le monde vient te donner de l'aide quand tout à coup il y en a un qui a ploché le X, le Y ou le Z, tout le monde fait, ah vas-y, faut lui donner les bonnes cartes, hein, parce que là c'est vraiment une mission hyper dure, pour peu qu'en plus la personne soit dans la partie plutôt basse. Enfin, tu vois, dans les vallées, du coup, on se dit, oh là là, la grosse ascension, ça va être super dur. Faut qu'on lui trouve une mission à mi-parcours pour que vraiment ça ait du sens qu'il monte jusque là-haut et qu'il dépense toute cette énergie pour aller faire cette mission-là. Et c'est ça, c'est vraiment très plaisant.
Mais t'arrives à trouver du sens dans tout ça quand tu le fais vis-à-vis du thème, je veux dire, parce que tu vois la communication qui est limitée alors que bah tu pourrais imaginer que t'as tes téléphones ou tes talkie-walkie ou quoi que ce soit. Et puis pareil, tu vois, le fait d'aider alors que t'es tout en dessous, bah en fait tu te dis bon, tu vois, là où si t'étais dans un truc d'escalade avec une cordée, ça a du sens et tu te dis waouh, là on parcourt un truc ensemble et je peux t'aider, te prendre le relais sur la tête, etc. Alors que là t'es à l'autre bout de la map et tu t'arrives quand même à trouver du sens au fait de ah on va lui donner un coup de main et on va le porter vers ce sommet par exemple.
Non, non, là tu trouves pas de sens. C'est vraiment purement mécanique, mais ça serait plus dans l'idée de tu lui donnes des provisions ou tu lui donnes des, tu vois, tu lui donnes l'équipement pour aller atteindre ce truc-là. Et c'est vraiment ça aussi. C'est cette idée d'équipement en se disant. Et puis en plus t'as le deuxième truc aussi, c'est non seulement faut lui donner l'équipement pour y arriver, mais faut lui donner le moyen, tant qu'on y est, tant qu'on est là-haut, d'aller découvrir l'animal qui y correspond à cette partie-là.
L'idée de la mission là, tu c'est plus ça se visualise plus facilement, je trouve, en termes de narration, où tu te dis, bah puisque là pour le coup, tu vois le côté un peu leader, bah tant que tu y es, c'est déjà tu vois là, tu feras ça au passage, tu vois. Un
Petite
truc comme
mission au
ça, où tu lui
passage.
rajoutes un truc.
Dernier point qui est assez intéressant en termes stratégiques aussi de nous, de ce qu'on fait, c'est que tu ne peux révéler qu'un certain nombre limité de missions par. Il y en a qui sont attribuées à chaque acte, enfin à chaque manche, et tu peux pas les redécouvrir avant. Et il y en a un sur la dernière manche. Il y a toujours une ou deux petites missions sur la dernière manche. Et donc, donc, bien sûr qu'avant qu'arrive cette dernière manche, et par du temps, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. C'est possible de, tu vois, on se distribue bien les cartes et on se dit c'est bon, on peut tous faire notre mission. Mais il y a deux wildcards, tu vois, vraiment des cartes dont on ne sait pas, deux cartes mission qu'on ne sait pas ce que c'est et qu'on espère qu'elles seront pas trop dures. Et donc, c'est le moment où il faut qu'on essaye de se répartir sur la carte en se disant, eh ben, n'importe quel point. Il faut que j'y puisse y aller. Surtout que de la même manière que sur Origin Story, donc toutes les cartes mission ne sont pas toutes distribuées. On les verra pas toutes. Donc tu sais vraiment pas.
Donc t'as quand même une déduction progressive parce que tu te dis toutes celles-ci elles y sont plus, mais il y a quand même encore plusieurs possibilités, c'est pas juste les deux dernières du paquet, quoi. Ouais.
Et donc moi ça m'est déjà arrivé sur une partie, on s'est retrouvé à être trois dans le fond de la vallée, et puis tout à coup ça se passait en montagne, une des deux dernières missions. Et on était là genre, ah ben on n'a plus assez de provisions, d'actions, de temps pour pouvoir aller l'atteindre. Donc ça aussi, tu vois, t'as cette réflexion à avoir et que propose le jeu où il te retient une surprise jusqu'au bout en faisant attention, hein. Ça a l'air d'être le puzzle. Vous avez l'impression, tu vois, ce système-là, vous avez l'impression d'avoir fini, mais je vous garde une petite surprise pour la fin. On sait jamais. Il va peut-être vous arriver quelque chose de ce qui est plutôt agréable. Voilà. Bah après, donc tu vois les 5 niveaux de difficulté, bah c'est comme si tu avais des extensions où tu rajoutes quelques règles supplémentaires, des contraintes, des choses. Du coup, tes cartes animaux vont te servir. Donc tu vois, finalement, tu fais pas que les voir parce que t'as des, par exemple, il y aura des éboulements sur des chemins et donc du coup, eh bah, si t'as découvert tel animal, tu peux enlever l'éboulement. Là aussi, encore une fois, d'un point de vue thématique, ça n'a pas de sens et tu
Tu les
sens que
transformes
c'est
en monture.
Oui, c'est le truc magique, tu vois, tu montes sur le renard, et puis forcément, ça fait passer les sentiers, c'est
Vois
sûr.
les cartes là, les cartes déplacement, toi ça t'a pas trigger le fait que pour deux déplacements t'aies 3 points, par exemple. Moi je vois ça et je vois deux, ça te donne deux déplacements donc t'as les deux chaussures. Donc ça c'est clair, mais tu vois les points t'en as trois parce que du coup t'as le point de départ, le point d'arrivée et un point intermédiaire, ce qui fait effectivement deux déplacements puisque c'est les déplacements entre les points. Mais moi, je vois 3 points et je me dis, je peux dé me déplacer de 3, tu vois. C'est, mais bon, après, c'est du détail d'édition. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que, moi, j'ai regardé donc juste un let's play et clairement, autant, ce que tu disais de jouer ses cartes, etc., c'est pas ce qui a l'air le plus intéressant, le petit puzzle personnel, mais finalement, on s'en fout parce que, un peu comme le pli, on s'en fout dans Origin Story, là, le fait de calculer son petit puzzle perso pour aller à sa mission, ça a pas l'air d'être le cœur du jeu et un peu comme dans Origin Story, ça a l'air d'être la préparation qui est le plus intéressant, le moment où tu interagis avec les autres, bien que tu ne parles pas, et où c'est un moment où tu dépends des autres en fait, et où tu ne fais rien pour toi, quoi. Tu fais juste des trucs pour les autres, et les autres font des choses pour toi, et donc tu es entièrement dépendant de ce que vont faire les autres pour toi, ce qui est très bien dans un jeu coopératif, tu vois.
Ben oui, pour moi, c'est le cœur du jeu. C'est ce qu'il apporte que je retrouve pas dans tant d'autres jeux que ça. Ce truc où tu es vraiment dédié aux autres. Et même un bonus, tu vois, même le dernier truc où tout à coup, des fois, eh ben, c'est même pas pour toi. C'est forcément pour les autres. Le jeu te tourne vers les autres, forcément.
Il y avait aussi un truc aussi auquel j'ai pensé, alors c'est pareil, c'est du détail, Mais tu vois, en fait, comme tu te dis, tu vas donner des cartes aux personnes à gauche et à droite, au-delà du fait que tu puisses utiliser le bonus de tout le monde, je trouve que du coup, ce que tu as dit sur se reposer sur ce que l'autre personne va passer à tes voisins ou voisines, en fait, ça fait que, en tout cas à 4, tu joues quand même avec tout le monde. Alors que tu pourrais te dire, en fait, au-delà de 3, ça n'a aucun intérêt. Là, comme tu te dis, ah ben la quatrième personne, elle va peut-être pouvoir lui passer ça, tu réfléchis quand même à cette personne avec qui tu interagis pas directement par le matériel. Et du coup, en tout cas, à 4, tu joues quand même avec tout le monde, alors qu'il y a des jeux où dépasser 3, ben, tu vois, Seven Wonders, typiquement, bon, ben voilà, à 3 ou à 7, c'est kiff-kiff, quoi.
Non, oui, t'as raison. En plus, quand je me remets mes parties, effectivement, celui qui est en face de moi avec qui je ne donne pas de carte, on se dit bien.
Mais le contact visuel, je pense. Tu vois, tu te regardes dans les yeux, tu fais, ok, on s'est compris.
Oui, c'est ça. Et puis en plus, des fois, en fait, tu peux pas le faire au moment où tu passes les cartes, mais une fois que toutes les cartes sont passées, là, souvent, tu sais, en fait, on commente vite fait, tu vois, et tout à coup, quand t'es avec celui d'en face ou celle d'en face, d'un coup, on se dit tous les deux, on fait, ah putain, je t'ai pas gâté. Et puis, ah toi aussi, ah merde. et t'as la personne qui est entre nous qui fait, oui, effectivement, je vois pas trop ce que vous vouliez que je fasse, les gars.
Mais c'est bien qu'il arrive à mettre cette connexion là quand même, tu vois, avec la personne avec qui t'interagis pas par le matériel, c'est cool.
Voilà, donc c'était The Pictim Rangers de Scott Ames, qui a été illustré par Crocotam et Samuel Bouvant, qui se joue donc de A à 5 pour des parties de 60 minutes avec des joueurs de 10 ans et plus.
Qui lui est disponible ou pas? Je sais même plus. J'ai pas regardé.
Et oui, qui est normalement toujours disponible à la Caverne du Gobelin.
Très bien, très bien. Bah merci de cette présentation. Écoute, moi ouais, de ce que j'ai vu, comme dit, j'étais curieux des points que t'as mis en avant, quoi. Autant le reste, le côté plus se promener et puis valider les missions. Même si c'est lisible, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, mais curieux d'essayer ça, au moins pour voir ce que ça fait ressentir en termes de coopération, quoi. Voilà, que vous ayez aimé notre émission ou non, vous pouvez nous le faire savoir en laissant un petit commentaire sur le site podcast.proxy-jeux.fr, proxy avec un i et jeux avec un x, même si le fige a oublié le x sur notre stand apparemment, j'ai entendu ça ce matin en écoutant le débrief. Ne l'oubliez pas si vous faites vos recherches. Voilà, donc des petits commentaires pour nous dire si vous aviez déjà vu ce truc que tu disais là, l'espèce de I split you choose avec tes partenaires. Et, enfin non, c'était pas ça, la mécanique à la Danger 13 là, la répartition progressive des missions en coopératif. Sinon, on est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Mastodon ou Blue Sky. Vous pouvez aussi venir sur Discord où il y a un salon spécifique pour les jeux du mois si vous voulez discuter avec nous de manière un peu plus immédiate. Le site, c'est pour la postérité. Vous pouvez partager nos émissions sur les réseaux et puis parler de nous autour de vous. Et comment on peut nous aider financièrement? On a cité les donateurs et donatrices au début, Bartouf.
Eh bien, c'est possible de le faire, tout simplement en passant par PayPal. Donc, l'adresse est disponible sur la page d'accueil du site. Mais le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de commission par PayPal et que vous fassiez directement un virement bancaire à l'association Proxy Jeux. Et pour ça, il suffit de nous contacter pour qu'on vous donne notre RIB.
Et donc le mois prochain, nouveau jeu du mois, avec peut-être un duo inédit comme celui-ci, comme celui du mois dernier. Et la semaine prochaine, normalement, vous avez un dossier qui était normalement prévu pour février, qu'on a dû repousser d'un mois. Et normalement, si tout va bien, il devrait être consacré à l'éthique et la morale dans le jeu de société. Toi, tu as déjà fait des chroniques sur ce sujet la saison précédente. Du coup, tu seras pas dans le dossier, Martin.
Non. Moi, vous m'avez déjà suffisamment entendu sur le sujet.
Voilà, donc ça c'est pour la semaine prochaine. À très bientôt et en attendant, jouez bien.